Une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut que nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante.
Cette semaine, on a reçu Alexandre Champagne, un gars qui est quand même qui est connu, là, qu'on connaît pour différentes raisons. Moi, je l'ai connu d'abord, on en parle dans le podcast, avec les capsules humoristiques contre de gars. Ouais. Quand j'étais plus jeune, on écoutait ça, on trouvait ça vraiment drôle. Puis beaucoup l'ont connu avec 3 fois par jour. C'est le photographe Alexandre Champagne qui travaille avec son ex-copine Marie-Lou, son ex-femme même, je dirais, sur ce projet-là, qui ont complètement monté ce projet-là de A à Z. Ouais. Après ça, maintenant, en fait, il est photographe, il a son studio de photos, il donne des ateliers. Il avait sorti un livre sur la photographie, sur comment prendre des belles photos avec son téléphone cellulaire. Mm-hmm. Quelque chose qui peut bénéficier à tout le monde. Je pense que tout le monde veut prendre des belles photos avec son téléphone cellulaire. Un gars, c'est vraiment un réel plaisir de l'avoir au podcast. C'était super facile à interviewer. Le gars, ouais. Tu poses une question, il peut partir pendant 20 minutes puis parler. Mais il est super intéressant, il s'exprime super bien. Puis c'est un gars qui a un parcours, justement, qui a fait plein d'affaires qui ont fonctionné. Toutes ces affaires-là ont fonctionné, mais des affaires vraiment différentes. Fait que vraiment un entrepreneur intéressant. Quelqu'un qui a quelque chose à dire. On a parlé de santé mentale aussi. Lui, comment il a réussi à travailler ça, puis à guérir des blessures qu'il avait, puis à améliorer sa santé mentale, finalement. Donc, super beau podcast. Encore bien content.
Ouais, puis Alex, c'est aussi un gars qui redonne beaucoup aux gens dans le besoin, là, que ce soit pour des causes comme, ouais. Comme le défi sans alcool 28 jours en février. Je sais qu'il a donné beaucoup de ses droits d'auteur pour aider justement la lutte contre l'alcoolisme. C'est vraiment une personne qui redonne à la société, puis c'est une super belle conversation. Si vous nous écoutez en ce moment sur Balado, n'oubliez pas de nous laisser un rating de 5 étoiles, ça fait son bout de chemin, un commentaire. Si vous nous écoutez sur YouTube, un commentaire également. Abonnez-vous à nos chaînes, suivez-nous partout. On a lancé maintenant un deuxième podcast qui s'appelle le Sans Filtre VIP, ouais. Qui est disponible seulement sur notre plateforme Patreon. Donc, si vous n'avez pas assez de Sans Filtre à chaque semaine, allez sur notre plateforme Patreon. Le lien va être dans la description du podcast. On reçoit le plus souvent possible des invités qui sont moins connus du grand public, mais qui sont tout aussi intéressants. Donc, si vous êtes des fans de podcasts, vous voulez écouter plus de Sans Filtre, dirigez-vous vers la page Patreon. Sinon, le Studio SF, on continue à produire des podcasts de grande qualité à chaque semaine. J'ai du temps de discute, notamment. Adamo, le temps d'un jujube avec Adamo. D'autres podcasts à venir. Et je pense qu'on a déjà assez parlé trop longuement. Puis on va laisser la parole à Alexandre Champagne. Donc, bon podcast.
Bonne écoute.
Il
n'a pas dit le 1, c'était carrément.
Il est bien drillé.
Félicitations, tout le monde. Toute l'équipe.
Il a réussi,
Hey, Alex, merci d'être là, man.
Ça me fait plaisir.
Salut, man. Ça aurait été un long time coming.
Je sais. On s'est forcé, on a essayé des dates. Ouais. Tu m'appelais, je répondais pas, je t'appelais. Ouais. En tout cas.
Toi, on l'a eu, man.
Moi, je répondais. Toi, t'étais plus difficile à rejoindre quand même.
Man. Je suis vraiment pas une personne. Ben. Ouais, ça, je suis pas une personne facile à rejoindre.
J'y croyais pas encore avant le 3-2-1. Puis là,
c'est pas qu'il y a eu le 3-2-1. Imagine à 2, il s'en va. Si j'avais un meeting, j'ai oublié.
J'avais oublié de vous dire, les gars.
J'avais oublié de vous dire.
Mais j'avoue, occupé comme tu me sembles être, sans gérant, man, ça va être insupportable.
Ben non, je suis pas si occupé que ça. C'est okay. Comme un mythe qui m'entoure, okay. I guess. Les gens se disent, on sait que t'es occupé, mais je dis non, je suis pas occupé pour vrai.
Arrêtez de me dire que je suis occupé.
Non, mais depuis le mois de décembre, je te dirais, j'ai pogné une solide grippe au mois de décembre. Genre, ça fait une grippe, une vraie grippe là, de fièvre, puis tu shakes, puis tu rêves à des bombes, puis des affaires de même. Je sais pas si la partie des rêves, c'est attribuable à la grippe. En fait,
genre des grippes,
je faisais genre de la fièvre hallucinante. En tout cas, j'hallucinais des affaires. J'ai vraiment été malade. Puis j'ai comme réalisé que j'avais fait la plus grosse année de ma vie en 2018. J'ai vraiment, vraiment travaillé beaucoup à tous les niveaux. Ça a été extraordinaire. Ça a été au-delà de mes attentes. Puis au lieu de me galvaniser, ça m'a fait peur un petit peu. Parce que je me disais, j'ai été très chanceux. C'était comme ma sortie 3 fois par jour. J'avais besoin en quelque part de démontrer que j'étais capable d'être « on my own mm-hmm. ». Puis j'avais mes ateliers. J'ai été porte-parole du World Press. J'ai fait plein d'affaires. J'ai fait beaucoup de contrats. J'ai refait l'image, toute l'identité visuelle de la cage au complet, en photo de bouffe. Fait que, tu sais, j'avais des grosses affaires. Puis j'ai réalisé, après l'histoire de Caroline Néron, qu'on connaît tous, que ça pouvait arriver à tout le monde, une bad luck, où personne n'est à l'abri de la malchance. Puis je me suis dit, je pourrais pas rouler toute ma vie sur une réputation puis sur un truc qui va être repris par quelqu'un d'autre éventuellement puis qui va, tu sais, qui est accessible à tout le monde. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis en ce moment, j'ai des projets. Tu sais, j'ai mon studio pas loin d'ici. Ouais. Je fais des photos, je reçois des familles, je donne des ateliers. Mais j'ai comme deux ou trois gros projets qui sont en train d'incuber. Puis je prends vraiment le temps pour ça. Je prends aussi du temps beaucoup pour ma famille, mes amis, des choses comme ça. Je veux travailler sur mes relations interpersonnelles. Je veux travailler sur ma vie personnelle parce que je l'ai délaissé pendant vraiment, vraiment longtemps au profit de mon entreprise avec Marie-Lou, trois fois par jour, puis au profit de, des sous en grosse partie parce que c'était mon rôle chez trois fois par jour. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que...
T'étais le trésorier.
Je bois comme le money getter, si on veut, tu sais, mais pas dans le sens j'étais juste au cash, mais j'essayais de trouver des manières créatives de faire entrer des revenus, mais principalement pour payer les gens qui travaillaient avec nous, pas pour se payer genre des boules en or puis des bijoux dans des coffres. Moi, je t'ai toujours dit que si jamais je gagne, mettons, 60 millions, ce qui n'arrivera pas parce que je ne joue pas à la loterie, mais je vais m'acheter une boule en or. Puis là, on parlait de ça avec mon éditeur de livres, Antoine Rostrump. Puis là, il dit, sais-tu, c'est gros comment une boule en or de 60 millions? J'étais comme, non, ça doit être genre gigantesque. Puis il fait, non, ça doit comme mesurer maximum 50 cm de haut. Tu sais, fait que t'as l'impression que, mettons, 60 millions d'or, c'est genre une gigantesque boule, mais c'est juste comme, mettons, un ballon Dominican divisé en deux.
la moitié d'un ballon.
Tu pourrais faire une boule de quai en or, puis aller jouer au quai avec ta boule, man, ça serait hot.
Ouais, plus ou moins, c'est quand même assez malléable, l'or. C'est trop soft pour faire ça. Ça va te prendre quelque chose de plus dur. Ah, tu le savais pas, hein?
Non.
C'est un élément qui est très mou, l'or.
As-tu fait des quais dans ta vie?
Non.
Okay. T'es juste un expert de l'or.
En fait, moi, j'ai un gros... c'est weird, man. Je suis un gros fan du tableau périodique.
Ah ouais, hein?
Les éléments, puis ces affaires-là.
C'est lequel ton préféré?
Oh my God, man. Tu peux pas me dire ça. L'uranium?
Deux bonnes questions.
Ben non, l'uranium, quand même, parce que c'est assez particulier comment on fait pour extraire l'isotope d'uranium dans une centrifugeuse qui va jusqu'à 70 000 RPM. C'est full intéressant. Mais l'uranium, en tant que tel, il est pas... Moi, je préfère, comme toute la partie en bas, les éléments qui ont été découverts après, qui sont des éléments synthétiques, comme l'einsteinium, ces affaires-là. Mm-hmm. Ça, je trouve ça fascinant. Puis tu savais que tu pourrais pas, sur un mur, faire tenir un morceau de chaque élément, un à côté de l'autre. Tu créerais la fin du monde en faisant ça. C'est full intéressant.
Mais c'est ça, tous ces éléments-là, ils se défont en une fraction de seconde. Là. Les
pas
éléments,
nécessairement.
Les éléments créés en laboratoire. Là.
Je pense que oui. Je suis pas trop connaissant de ceux-là, mais les autres, tu sais, ça existe en matière physique, à part, mettons, les gaz, là, qui sont un peu tough à tenir dans ta main. Mais tu pourrais pas les mettre un côté de l'autre. Tu créerais une fission nucléaire qui n'aurait pas de bon sens, puis un chain reaction qui ferait exploser la planète Terre.
Ah ouais, hein?
C'est fou qu'il n'y ait pas comme un docteur Terreur qui avait ça en objectif.
Ouais, mais c'est.
Moi, il me semble, mettons que j'ai un cerveau twisted, puis là, j'apprends cette nouvelle-là, je fais comme, man, c'est la façon de mettre la fin du monde.
Puis ça serait un meilleur méchant dans James Bond, parce que plus ça va, plus les méchants dans James Bond sont soft. Il y a un gars qui voulait comme empoisonner l'eau. Ça fait comme, comment, dude? T'es fait sauter de quoi?
Il y a vraiment des manières plus efficaces, là.
Ouais, d'être un vilain, tu sais.
Evil. Man, mais moi,
on est comme parti. Ça,
mais non, mais sinon, ça va super bien. Je suis pas si occupé que ça. Je prends beaucoup de temps pour ça. J'ai mon site web. Hey, je suis en train de me faire un site web où je vais mettre tous mes projets photos parce que là, tout ça tient dans Instagram. Je vais aussi mettre à vendre des filtres et des bases de retouches pour les gens qui veulent apprendre la photo. Toutes mes formations, je vais les faire en vidéo aussi pour tout le monde qui veut les avoir partout à travers la province. Je vais peut-être les faire en anglais aussi.
Est-ce que tu vas vendre des photos imprimées en cadre?
Peut-être.
Ouais,
peut-être que je vais faire des prints, mais peut-être pas non plus.
Print, c'était le mot que je cherchais pour éviter de dire.
De dire des photos dans des cadres. C'est comme quand tu dis l'affaire pour manger de la soupe, mais tu vas dire c'est cuillère.
C'est exact. C'est exactement.
Ouais, c'est ça. Ben, peut-être des prints, je sais pas. Je pense pas que mon art est rendu à ce niveau-là. Je me considère comme un photographe average. Je suis bon, je fais des bonnes photos.
Les prints, c'est comme le step. Quand t'es hot, t'as des prints.
Ben, tu peux faire des prints n'importe quand.
moi, je pourrais faire des prints.
Je pourrais faire des prints.
Ça, c'est un print? Ça, c'est un print?
Ça, c'est une toile. Ah. C'est pas tant. Ben, c'est un print avec de l'aquarelle, I guess. Je sais plus, je pourrais pas. Je le vois mal d'ici. Mais... Non, mais n'importe qui peut faire des prints. C'est juste que je trouve que d'offrir une photo imprimée, pour moi, c'est un processus. C'est plus grand que juste faire comme j'ai fait un beau coucher de soleil, m'a te le mettre sur un papier puis je vais te le vendre parce que je m'appelle Alexandre Champagne. T'sais, moi, je travaille jamais sur mon nom, sauf pour évidemment inviter des gens à mes ateliers parce que bon, je montre ce que je suis capable de donner comme résultat et donc pourquoi je suis en mesure aussi de l'enseigner. Mais tout le reste, je ne joue jamais sur mon nom. Je veux vraiment miser sur la qualité de mon travail. Puis en tant que photographe average, il y a des photographes au Québec qui sont mille fois meilleurs puis qui font ça de leur vie puis qui travaillent fort. Moi, j'ai un bon talent, mais je me considère plus comme un gars d'affaires aussi, mm-hmm. Puis un gars de stratégie, puis un créatif, un créateur, plus qu'un photographe comme tel qui va faire ça de sa vie. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, je suis un peu en meeting, brainstorm avec moi-même pour savoir ça va être quoi mon prochain projet, mais en même temps, je fais des choses qui me plaisent, comme par exemple recevoir des familles, ouais. Je prends des enjeux sociaux dont je parle à travers des reportages photos, des choses comme ça. Ça me fait vraiment triper.
Moi, quand tu as fait ton annonce que tu changeais de studio, mm-hmm. puis que tu vendais tes surplus matériaux pour, ouais. pour redonner, man, j'ai trouvé ça insane. Ouais. J'ai trouvé que c'était un discours qui s'éloignait tellement de la tendance populaire qu'on tient en tant que société de juste faire mon succès s'établit pas en matériel, c'est rien. Puis tu avais même l'humilité de dire mon trip d'ego, je l'ai déjà vécu, ouais. puis j'en veux plus, là. Mais c'est pas ça m'amène rien de plus, tu sais.
Non, vraiment pas. Puis c'était carrément ça, là, tu sais, je veux dire. Puis en même temps, ça n'enlève rien aux gens qui décident d'acheter des voitures ou des choses avec leur sous. Tu sais, ça prend une certaine liberté économique dans une société pour que ça fonctionne puis pour que les gens aient envie de redonner. Autrement, ben il y en a qui s'en vont vers des paradis fiscaux, des choses comme ça. Fait que ouais. je trouve que la liberté économique qu'on a est bonne, elle pourrait être meilleure, mais elle est quand même bonne. C'est juste que le choix personnel que j'ai fait, c'est de m'éloigner de ces affaires-là. Un de mes grands gars favoris au monde, c'est Keanu Reeves. Keanu Reeves, en secret, a financé pour 80 ouais. millions de dollars des hôpitaux pour enfants. Ouais. C'est un gars qui prend le métro, c'est un gars qui, tu sais, il s'en fout. Puis
les histoires commencent à sortir de Keanu Reeves là, ouais, ouais. dernièrement. Là.
Puis pas que je veux.
C'est le nouveau héros d'Internet, en fait. Ah, là. Ouais.
Non, mais c'est un gars qui est extraordinaire. Puis ouais. c'est un gars qui, tu sais, je veux dire, sa fortune est un million de fois plus grande que la mienne. Là. C'est pas ça. Je veux pas comparer, mais tout est dans l'attitude aujourd'hui. Tout est dans l'intention. T'sais, tout le monde peut devenir photographe. Tout le monde peut avoir un podcast. Tout le monde peut faire n'importe quoi. Tout est rendu accessible. On a démocratisé l'accès au fait de s'exprimer, au fait de communiquer des choses à tout le monde. Fait que moi, je pense que ce qui prime là-dedans, c'est les intentions que tu as derrière. Moi, c'est sûr que je trouve ça le fun dans ma Tesla quand je me fais faire des thumbs up par tout le monde sur la rue parce qu'ils trouvent ça écœurant de voir un char électrique, charcoal molle et vite teinté, on dirait le char de Batman. Mais moi, personnellement, ça m'apporte rien. T'sais, ça me donne rien de faire ça parce que la personne que je vais croiser, elle me connaît pas, je la connais pas, puis j'ai un thumbs up pour un morceau de métal que j'ai réussi à payer parce que j'ai eu le privilège puis la chance d'être né dans une bonne famille, d'avoir rencontré Marie-Lou, d'avoir été entouré d'une équipe extraordinaire qui m'a permis de faire des sous. Fait que je me dis, tu sais, tout ça, c'est comme du vent, puis c'est de l'énergie aussi. Tu sais, veux, veux pas, quand tu as un niveau de vie à ce niveau-là, même si tu fais des sous, puis dépendamment de combien tu fais, mais même si tu fais des sous, c'est des dépenses quand même. Je regarde les sous que ça coûte, puis je regarde ce que je pourrais faire sur le side avec ça pour aider d'autres personnes, puis je me dis, je pense que c'est mieux investi de ce bord-là. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça le fun d'avoir des voitures. Toutes les voitures que j'ai voulu avoir dans la vie, je les ai eues. Puis là, c'est comme fini. Je me dis, j'ai 33 ans, je vais m'ennuyer en esti à 40 là, si je continue à faire ça. Ouais. Puis peut-être qu'à 40, si j'ai mal géré mes affaires, il m'arrive une bad luck, j'aurai plus une scène. Parce que peut-être que les gens, Alexandre Champagne, les photos, ils vont faire comme, on a fait le tour, tu comprends? Mm-hmm. Fait que je pense qu'il faut pas se prendre au sérieux. C'est le fun quand ça va bien, tu sais. Sauf que tout ce qui monte redescend, je pense à des photographes que je connais qui sont extraordinaires, qui travaillent plus aujourd'hui parce que, ben écoute, la tendance est passée, puis c'est rendu quelqu'un d'autre. Puis les gens se succèdent, des choses comme ça. Fait que je me dis, je veux réduire mon niveau de vie de un parce que j'ai envie de prendre mon capital puis de l'investir sur des projets sociaux que je veux faire. Puis ensuite de ça, ben pour mon niveau de vie, j'ai plus envie là, d'emmener large, tu comprends? J'ai envie d'une petite vie simple puis de me servir le plus possible de mes ressources, autant mes connaissances, ma visibilité, mes sous, pour mettre ça au profit de choses qui comptent plus pour moi. Mm. Puis après ça, ben si ça inspire d'autres gens à faire la même affaire, tant mieux. Mais c'est vraiment pas une leçon ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est mon choix personnel à moi.
Est-ce que t'as senti dans ce changement-là une espèce de légèreté?
Ah ouais, man.
Dans ton être?
Ouais, je me suis remis à dormir. Ah, parce ouais. que moi, j'ai toujours été un gars qui dormait super bien. Puis à partir du moment où il est arrivé l'histoire avec Caroline Néron, je me suis mis à faire de l'insomnie.
Ouais.
J'ai fait ça parce que j'étais comme... J'ai vraiment été cocky en faisant ça. Je me mêlais pas de mes affaires. Il y a une chose que j'ai gardée de ce discours-là, puis c'est l'histoire des taxes. Les taxes que tu perçois, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu deviens un collecteur pour le gouvernement. L'argent que tu as des taxes, tu dois le redonner absolument, soit mm-hmm. aux 3 mois ou à l'année. Ça, pour moi, c'est primordial. La meilleure forme de philanthropie au monde, c'est de payer ses impôts. Fait que quand j'entends des personnes qui sont extrêmement riches, qui veulent être encore plus riches en allant dans les paradis fiscaux, je trouve ça dégueulasse parce que c'est de l'argent qui va servir à tout le monde. Pas juste les gens qui mangent pas, pas juste les gens qui sont malades, pas juste telle catégorie, ça sert à tout le monde. À toi, à toi, à toi, ça sert à tout le monde. À un moment donné dans ta vie, tu vas avoir besoin d'aide, tu vas peut-être avoir besoin d'un coup de main, une subvention, d'aller à l'hôpital ou whatever, puis ça va être payé grâce à des gens qui font des sous. Merci aux personnes qui sont plus fortunées, évidemment, parce qu'ils ramassent une bonne partie de la facture sociale. Mais moi, je pense que c'est fou l'important. Fait que cette partie-là du discours, j'aurais pu la formuler beaucoup mieux, puis j'aurais pu ne pas m'attaquer personnellement à Caroline. Ouais. J'aurais jamais souhaité qu'elle fasse faillite. T'sais, moi, je ne souhaite pas l'échec des gens. Je ne suis pas quelqu'un qui est compétitif. Je ne suis pas quelqu'un qui est amer dans la vie. Mais j'avais eu une super bonne année. J'étais un peu cocky de ce que j'avais réussi à faire. Puis quand j'ai vu ça, j'ai juste comme frappé. Ben, l'autre affaire aussi, c'est l'apparence, c'est le statut ou la glorification des entrepreneurs. T'sais, le gars, il hustle, il se lève à 5 heures, il s'entraîne. C'est quoi les 10 habitudes des gens millionnaires? Puis je vois ça sur Instagram puis je trouve ça débile. J'ai peur, mettons, de ce que ma fille va faire de cette information-là qui est complètement ridicule. Je veux dire, oui, tu peux devenir millionnaire. C'est pas interdit à personne de devenir millionnaire, mais c'est pas tout le monde qui part de la même place. Puis est-ce que tu veux vraiment être millionnaire? C'est tout ça ton but d'avoir beaucoup de cash? Il y a tellement d'affaires fausses qui roulent sur Internet, des entrepreneurs qui font des speeches de motivation. Ils ont 21 ans. Ils n'ont pas eu d'échec dans la vie. Je trouve ça un peu débile. Fait que c'est un peu ça que je voulais... défaire, où je voulais commencer la discussion. Puis malheureusement, j'ai fait quelque chose qui n'est vraiment pas dans mes habitudes. Puis j'ai pris une personne à partie, puis j'ai mis cette personne-là dans le milieu de mon affaire, puis je le regrette. Tu sais, Caroline, c'est une fille qui est gentille. Elle a fait ses choix dans la vie, puis elle a fait ses affaires, puis c'est pas à moi de juger. Puis j'ai regretté ça, j'y ai parlé, on s'est excusé. Elle me porte pas dans son cœur, puis c'est tout à fait normal, puis j'y en veux pas pour ça. Mais j'aurais dû fermer ma gueule. Pour vrai, ouais, looking back, là...
Je pense que c'est que ça... Son exemple à elle représente un peu ce que tu viens d'exprimer par rapport à l'espèce de glorification du statut plus que de l'entreprise comme telle, tu sais. Mm-hmm. Plus comme l'entrepreneur au-delà de l'entreprise, ouais. Tu sais.
Puis, c'est sûr qu'elle rendait beaucoup sur sa notoriété, son image, puis ouais, tout ça, plus ça. Que
mais peut-être... Mais c'est correct, tu sais, t'as le droit de faire ça. Nous, c'est exactement ça qu'on a fait pour 3 fois par jour. Fait que je peux pas blâmer une personne s'être servie. Puis je veux dire, ça marchait, ses affaires. Puis il y a des gens qui aiment ce qu'elle fait, puis ses trucs, c'était de la qualité. Puis je veux dire, faut pas, tu sais, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là.
Ah ouais.
En même temps, il y a quand même une différence, tu sais. Mettons qu'on garde les deux exemples de créer une entreprise comme 3 fois par jour, même si tu utilises... Déjà, tu utilises des noms pour la créer, mais ça reste quelque chose qui est à part. C'est pas.
Je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est une passe, c'est la palette.
J'ai jamais vu ni toi ni Marie-Lou s'élever en utilisant l'entreprise, en fait. Là,
vous avez quand même parti de pas grand-chose en s'entendant. Marie-Lou était connue déjà un peu parce qu'elle chantait.
Ça, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a des gens qui disaient. Ah, c'est facile, c'est sûr qu'ils ont du succès, puis tous sont déjà connus. Puis l'autre moitié du monde disait, Chris, ça marchera jamais, c'est des has-been.
C'est ça.
C'est quand même drôle.
Tu sais, moi, je
trouve. On savait pas trop.
Moi, je trouve que vous avez quand même vraiment construit de quoi. Tu sais, oui, elle chantait, mais vous avez construit de quoi de nouveau à partir d'absolument rien, man. Puis ça, c'est tout à votre honneur, là. C'est les personnes qui.
Oui, puis non, on est parti de rien. On a eu des investisseurs privés au début que je remercie encore à tous les jours. Puis. Moi, j'avais quand même une base en photographie. Marie-Lou, ça faisait longtemps qu'elle cuisinait. Puis, c'était pas nouveau dans le sens où Ricardo était là, Coup de pouce était là, Cuisine futée était là. Il y avait plein de gens qui étaient là, qui avaient déjà du succès. Je pense qu'on l'a fait différemment. Puis nous, comme je disais tantôt, ce qui faisait la différence, c'était nos intentions. L'intention avec 3 fois par jour, c'était de transformer pour le mieux la relation entre la nourriture et les gens.
Ouais.
Parce que Marie-Lou avait vécu un trouble du comportement alimentaire. Elle a été anorexique de 14 à 18 ans, puis elle s'est guérie. En majeure partie parce qu'elle a appris à cuisiner. Mm-hmm. Fait qu'en apprenant à cuisiner, tu comprends ce que les aliments font à ton corps. Puis après ça, ben, tu essaies de... Ou en tout cas, ce que Marie-Lou a réussi à faire, c'est de distancer l'image du besoin du corps. Fait que on a réussi à faire ça, puis c'est de ça dont il était question. Puis, tu sais, on le dit pas ouvertement tout le temps, mais le nombre de fois qu'il y a des mamans puis des papas en pleurs qui nous ont arrêtés à l'épicerie, dans la rue, au centre d'achat, whatever, pour nous dire « Vous avez sauvé ma fille, vous avez sauvé mon garçon. » On leur a trouvé, tu sais, on a trouvé une manière d'être en famille pour manger ou des choses comme ça. Je pense qu'on a fait naître du bon de ça, puis c'était ça l'intention. Avoir voulu juste faire des recettes, ben on aurait eu un petit studio, puis on aurait fait 40 recettes par jour. On aurait engagé du monde pour faire des recettes pour nous, puis tout ça. Mais comme c'était vraiment un craft trois fois par jour. Pendant deux ans et demi, 80 heures par semaine, on faisait, cuisinait, je faisais les photos, on faisait la vaisselle. Puis c'était ça non-stop pendant deux ans et demi. On n'avait pas de vie sociale, rien. Mm-hmm. Puis c'est pour ça qu'on est arrivé là. C'est pas parce que Renan Jalil ou quelqu'un était derrière nous puis nous a poussé à,
tout à, fait, là.
À faire de... À faire ça, où il n'y avait pas de machine, c'était elle puis moi en bobette le dimanche soir qui brainstormait sur qu'est-ce qu'on fait. Puis on a sorti des napperons, des affaires parce qu'on devait payer du monde pour travailler pour nous parce qu'on était dans le jus, la demande était forte et ainsi de suite. Fait que tu sais, oui, on est devenu indépendant de fortune, mais man, on a mis les heures.
Complètement. Puis je pense qu'une chose qui a démarqué aussi le truc, c'est la signature esthétique de ce projet-là qui était vraiment, man, qui avait du cachet, qui était différent de tout le reste des choses. Là, pis...
ben, c'est une signature qu'on s'est fortement inspiré de ce qui se faisait en Europe, de ce qui se faisait en Australie aussi, des courants de photos culinaires. Puis maintenant, c'est devenu vraiment populaire. C'est un beau courant de photos, mais on n'a rien inventé dans le sens où on a repris des affaires, on s'est inspiré. Puis nous, ce qui était important quand on faisait des photos, c'était pas de faire des photos de la recette, c'était faire la photo d'un moment. C'était d'inspirer les gens à préparer une belle table pour la famille, pour les amis, des choses comme ça. Fait que quand on se faisait dire « Ah, oh, c'est tout le temps beau, vous autres, tout le temps parfait, vous vivez sur une autre planète », on était comme « Non, vraiment pas, man. Je vais faire mon épicerie en jogging à Longueuil, là, comme respect. » Puis c'est juste que c'est pas inspirant. T'sais, j'aurais bien voulu faire des photos de lunch dans un Tupperware sur un comptoir à côté d'un micro-ondes dans une cafétéria, mais comme c'est pas ça qui inspire les gens à cuisiner. Puis nous autres, ce qu'on voulait, c'est que les gens apprennent à cuisiner. Puis aient vraiment envie de le faire pour vrai, puis faire une belle table, puis recevoir du monde, créer des liens, jaser, puis c'était tout ça trois fois par jour. Fait que...
On a reçu ici le nutritionniste urbain Bernard Lavallée, là, un petit bout quand même, puis il disait, tu sais, les Ricardo puis les Marie-Lou, puis en tout cas, ceux qui partagent leurs recettes puis qui inspirent les gens à cuisiner, justement, ils ont tellement, pour la santé publique, répandu du bon, parce que, tu sais, c'est un des premiers conseils santé nutritionnel, c'est cuisiner à la maison, tu sais, plutôt que manger dans les restaurants. Fait que justement, tu sais, vous autres, vous avez désengorgé les hôpitaux, tu sais, vous avez,
ben,
de manière humble, je veux dire, parmi d'autres, mais dans le fond, tu sais, pour la santé des gens, justement, d'inspirer les gens à cuisiner, man, c'est un des meilleurs conseils santé que tu peux donner, là, tu sais.
Non, ben, c'est ça l'affaire, puis c'était ça le but, tu sais. Le but, c'était rien d'autre que de faire comme, on est écœuré de nos jobs respectifs, pourquoi on se part pas un projet, puis si c'est payant, tant mieux, puis c'est devenu ce que c'est devenu.
C'était quoi ta job respective, toi, dans le fond?
Moi, dans le fond, j'ai été humoriste de 2007 à 2012.
C'est ça, t'as fait l'école de l'humour. J'ai comme appris ça vraiment trop tard. C'est drôle, hein?
J'ai gradué en 2007, en même temps que François Bellefeuille, Mathieu Cyr, Simon Gouache.
OK.
Une bonne année.
Ouais, une super bonne année.
Mais moi, je t'ai connu dans le temps avec
Contre
de gueule.
Mais c'est là que je voulais aller.
Parce autres, que... Moi, j'étais au cégep, même au secondaire, quand ça a commencé au cégep.
Ça m'a fait rire, man. J'ai un gars qui m'a dit, hey, monsieur, j'aimais vraiment ça, vos capsules de Contre de gueule. J'étais comme, d'où, t'as quel âge? Comme, j'ai 20 ans. Il y avait 8 ans, 8-9 ans quand il écoutait ça.
Mais tu sais, nous autres, moi mettons, je suis peut-être 6 ans, toi, t'as 33.
33, ouais.
Moi, j'ai 27. Fait que tu sais, moi, c'est ça, c'était fin secondaire ou cégep que je tripais, là. Mais je trippais là-dessus, c'était bon.
Tu sais, mettons que tu regardes maintenant le courant des photos de bouffe Pinterest, mettons au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont arrivés après trois fois par jour. Puis admettons qu'après ça, tu regardes Contre de gars, puis les capsules web de genre de vlog qui sont arrivés après Contre de gars, j'ai l'impression que toi, man, tu t'es inscrit dans des courants rapidement. Tu sais, au Québec, je veux dire, des appelons ça vlog, mettons là. Mais ben, aujourd'hui, ce serait l'équivalent, mettons là.
Les humoristes qui font des capsules, puis ça devient leur méthode de marketing, dans le fond. Ouais. Tu sais, mettons les.
Mais toi, t'étais early en tabarnak dans ce trend-là.
Ben, moi, j'ai parti ma page Facebook en 2007. Ouais. OK? Puis quand j'ai parti ma page Facebook.
Facebook en 2007, c'est ouvert. Ça
faisait deux ans.
Ça faisait deux ans, c'est ça. Hein?
Ouais. Puis là, t'avais ce qu'on appelait des fanpages. Fait que j'avais parti une fanpage en sortant de l'école.
Précurseur, mon gars. Là.
Ben, c'est parce que j'ai vu là. Ben, je sais pas si je suis un précurseur. Il y en a sûrement d'autres qui l'ont fait en même temps, mais je peux pas savoir. Parce
que au Québec,
pas documenté,
en tout cas, on en parlait, là, des clips humoristiques comme ça. Là,
il y avait en même temps que nous autres, il y avait Idiot Fortier. Qui était une série web un peu comme caméra tenue dans la main. Puis c'était drôle, c'était vraiment drôle, c'était vraiment éclaté. Puis tu sais, il y avait eux autres. Puis pas longtemps après nous aussi, il y a eu le truc avec Simon-Olivier Fecteau en audition avec Simon.
Ouais.
Puis il y avait une couple d'affaires sur YouTube. C'est juste
Tom et ses chums, c'était en quelle année?
Ça, c'était avant.
Ouais, man.
Ça, c'était avant.
Des affaires médiévales, puis tout, là.
Donjon Dragon, là, c'est sérieux.
On joue. Parce, parce que hier, il y avait comme un article, je sais pas si c'est crédible ou pas, j'ai pas pris la peine de le lire, mais ça disait qu'il y avait une subvention pour une web série maintenant. Là,
mais ça, c'est
comme
genre.
15 ans après.
C'est comme un des premiers vidéos virales là, du Québec, le Tom et ses chums.
C'était vraiment. Mais c'est ça, ma page Facebook, je me faisais regarder de haut quand j'ai fait ça parce que les gens trouvaient ça prétentieux d'avoir une page Facebook puis de parler de son matériel. J'étais comme. Tu sais, moi, dans le fond.
C'est comme rendu la base.
C'est ça, c'est juste la base. T'sais, moi, ça me faisait rire un peu quand les gens étaient comme. Puis aujourd'hui, il y a des gens qui me donnent des sous pour que je leur explique comment ça marche, puis comment faire, puis tout ça. Fait, puis je veux pas dire que j'avais raison, gang de cave. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai vu là, ben, c'était simple, man. C'était gratuit, puis tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Ouais. Puis moi, je suis un gars de même. Je suis un peu sauvage dans le sens où. Si j'ai un projet, m'a le faire puis m'a le payer, esti, parce que genre j'ai travaillé en télé, j'ai travaillé en humour puis j'ai été vraiment gossé que les producteurs disent qu'il n'y avait jamais d'argent mais que tous les producteurs que je connais avaient une Porsche pour un bateau. Ça me faisait fucking chier. Puis je m'excuse, je deviens vraiment émotif quand je parle de ça parce que c'est encore ça la réalité. Oh, on n'a pas d'argent, mais tous les producteurs puis plusieurs personnes, je dis pas que tous les producteurs sont riches à millions, c'est pas ça que je veux dire, mais comme c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent, c'est juste que l'argent est, selon moi, drôlement distribué. Puis encore là, c'est du cas par cas. T'sais, j'ai fait des trucs où j'étais très bien payé. Quand j'ai travaillé chez TVA, par exemple, comme auteur, j'avais un très bon salaire, c'était bien. Mais comme j'étais tanné de ne pas avoir le contrôle sur le contenu, j'étais tanné d'amener puis d'être stimulé par des idées puis de me faire casser ça à chaque fois que je voulais les donner. Fait que j'ai fait à un moment donné, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour ramasser du cash, faire mes propres idées, puis après ça, ben je vais faire ce que je veux dans la vie. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Fait que c'est venu d'une frustration que je pouvais pas faire ce que j'aimais, que je me suis dit, ben, je vais faire ce que j'aime. J'avais commencé avec des capsules vidéo, genre, je décrivais un film de Walt Disney, puis je remontais toutes les parties dans le désordre, comme ça, pendant genre 2 minutes. Excuse-moi, j'ai accroché ton mic. Pendant, je mettais tout ça dans le désordre, puis ça faisait une espèce de montage un peu fou, c'était comique. Après ça, j'inventais des personnages, je leur faisais des faux documentaires. C'est le médium qui m'a toujours appelé. Puis là, je m'étais rendu compte qu'avec YouTube, ben, ça coûtait rien, puis tu pouvais le faire. Tu prenais des chums qui étaient pas pires, puis tu faisais tes affaires. Fait qu'après ça, on a fait Contrat de gars, puis oui, ça a parti, mais je ne sais pas si c'est nous qui a donné le coup d'envoi pour ça ou si c'est le fait que les gens ont juste fait comme « Oh my God, un truc gratuit qu'on peut faire. » Je pense à Julien Lacroix.
Ouais.
Julien,
ouais,
que je trouve vraiment, vraiment puissant, qui a déjà dit à Joe Roberge, si ma mémoire est bonne, qu'on l'avait beaucoup inspiré à se starter des capsules. Puis tout ça, j'étais content d'entendre ça parce que Julien, il est vraiment bon, il est vraiment drôle, puis ça lui a super bien servi. Tu sais.
Julien, en ce moment, c'est un des meilleurs.
Il est vraiment drôle. Les trucs qu'il fait avec Adib, puis tout, moi, je me souviens, j'avais mal à la gorge, man, tellement je riais. Je pensais que j'allais vomir un moment donné, tellement j'ai trouvé cave. C'est juste fucking stupide, puis genre, j'avais besoin de ça. Je trouve ça vraiment, vraiment bon ce qu'ils font. Puis. C'est juste qu'on a démocratisé l'accès à la culture à tout le monde. Puis comme on va en profiter, tu donnes le pouvoir au peuple. Là. C'est vraiment ça. C'est que les gens maintenant s'approprient ces affaires-là. Autant que Uber, Uber Eats, Turo, Airbnb, les gens sont comme « Hey, j'ai des ressources, puis je peux en faire profiter d'autres mondes, puis je peux me ramasser un sideline avec ça. » Puis ça part des carrières comme dans le cas de Julien. Tu sais.
Ouais. Ça change le statu quo aussi. Là. Tu sais, nous, on l'expérimente ici avec le studio. Là,
c'est
tu sais,
la même affaire.
Un studio comme ça, jamais des podcasts, mettons, là, jamais de la vie, on pourrait avoir les propos qu'on a, les invités qu'on veut, le contenu qu'on décide.
S'il fallait
qu'on attende
ton show à radio.
C'est exact, c'est ça. S'il fallait qu'on attende notre show, ben s'il fallait qu'on...
Qu'on rende des comptes à quelqu'un ou quelqu'un qui soit pas d'accord avec nous autres, une façon de faire en haut. Parce que, tu sais, toi, t'avais le feeling que ce que tu faisais, c'était la bonne chose à faire, tu sais. Puis quand quelqu'un qui en haut disait, ouais, non, c'est pas ça que tu devrais faire, nanana, c'est comme, ah, tu sais.
Moi, j'ai pas gardé mes jobs longtemps dans
c'est ça.
J'ai fait 4 écoles secondaires. Moi, j'étais pas capable de me conformer. J'étais pas capable. Puis pas de me conformer, genre, faut que tu sois là de telle heure à telle heure. J'étais capable de rentrer faire des chiffres. C'est correct, je comprends le fait qu'il faut avoir une discipline, un horaire, puis des choses comme ça. Mais pour moi, quand ça sortait en dehors de mes valeurs, c'était no fucking way. Ça marchait pas. J'ai déjà quitté, j'ai travaillé 2 semaines dans un magasin de vêtements, une grande, grande chaîne de magasins de vêtements qui n'existe plus maintenant. Puis je me souviens, j'étais avec un client, on avait du fun, puis genre, tu sais, j'étais payé un peu à commission, mais c'était genre ridicule. Je faisais comme 2 cents $ à commission. Puis à un moment donné, la personne qui gérait le magasin est venue me voir, puis elle a dit là, ça va faire le sourire, puis on s'amuse un peu moins, puis ci, puis ça. Puis j'avais comme 850 000 piastres de linge dans les mains pour le client. Le client, il m'a regardé, il dit, ça tente, je t'amène prendre un café, tu devrais crisser ça là, ce job-là. J'ai fait, ouais, bonne idée. J'ai mis le linge là, puis j'ai calissé mon camp. Puis comme, Man, je me souviens, j'ai des amis, là, ils faisaient esti de l'eczéma parce qu'ils stressaient d'aller porter des CV chez McDo, puis ils voulaient être pris parce qu'ils voulaient que dans leur CV, c'était écrit « J'ai travaillé chez McDo, genre, tu peux m'exploiter, all you want, je vais le faire. » Puis pour moi, j'étais comme « Oh my God, c'est complètement ridicule, man. » Je veux dire, tu pourrais faire plus, tu pourrais comme faire ce que t'aimes, puis être payé plus, puis tout ça. Puis pour moi, ça n'a jamais été ça. C'était comme « No fucking way, je vais pas me conformer à vos affaires. Mm-hmm. » Puis aujourd'hui, c'est ça que je fais. Ça a son lot de conséquences négatives aussi. Je ne suis pas un gars qui a la meilleure discipline au monde. J'ai juste un secondaire 4. Tu sais, comme il y a plein d'affaires comme ça, mais je vis bien et je suis heureux. Je ne veux pas dire aux jeunes, lâchez le secondaire, n'allez pas travailler puis whatever. C'est super important. Je pense à retourner à l'école bientôt parce que j'ai manqué ça dans ma vie. J'étais full intéressé par la matière, mais j'étais complètement dégueulé par la manière de l'apprendre. Puis le fait qu'il fallait que je reste assis puis que je fasse comme « OK, ben là, aujourd'hui, j'ai appris des affaires dont je me servirai jamais. » Tu sais, on a construit mon esprit de déduction, mon esprit logique avec les mathématiques, mais moi, ce qui me faisait triper, c'était le français, puis l'histoire, puis la musique, parce que je jouais du drum. Mm-hmm. Mais je pouvais pas faire ça. Il fallait que je fasse des maths, puis j'aimais pas ça. Puis comme aujourd'hui, je connais les maths que j'ai besoin de connaître parce que j'ai des entreprises, mais comme sinon, je m'organise bien, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas gardé des jobs longtemps. Puis quand je voyais des milieux où j'étais capable de faire ce que je voulais quand je voulais, ben j'allais là, puis je demandais l'aide des gens. Puis j'ai toujours bénéficié d'une belle grâce. Tu sais, les gens m'ont toujours encouragé dans ce que je faisais. J'ai toujours eu des réactions positives. Fait que je suis bien chanceux, mais je n'ai pas fait ça tout seul.
La beauté aujourd'hui, c'est que tu n'as plus besoin d'attendre de te faire repêcher, d'aller te faire chercher par quelqu'un. Ça m'a donné une job, m'a donné... tu vas animer telle émission, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu sais, on a tous les outils. Faire un podcast, honnêtement, tu sais, nous autres, on est bien installés, on a les beaux micros et les belles caméras.
Ça rentre-tu dans le micro quand je fais ça?
Un petit peu, c'est pas grave.
Faire un podcast, de l'ambiance.
C'est ça.
Faire un podcast, c'est pas dur, tu sais, c'est pas compliqué, c'est simple. Faire, construire son affaire, partir une chaîne YouTube, c'est pas si compliqué que ça, tu sais. Puis, peu importe c'est quoi, ce que tu veux faire, t'as moyen de trouver... Puis tu sais, l'entrepreneuriat, encore là, c'est pas pour tout le monde. Il y en a pour qui cette insécurité-là ou ce stress-là, ça fonctionnera pas. Mais si c'est pour toi, fonce, tu sais. Hésite pas parce que...
Ou essaie-le, du moins. Essaie-le, tu vas savoir si c'est pour toi ou pas.
Puis c'est ça.
Puis il faut pas non plus banaliser, tu sais. C'est ça, là, on parle des entrepreneurs. C'est tellement le fun d'être entrepreneur, puis nanana. Puis je suis comme, ouais, mais faut pas sous-estimer non plus tout... La catégorie des personnes qui ont des jobs manuels, qui ont des jobs...
Oui, mais non, c'est clair.
Comme, écoute, là, si on n'avait pas de gars puis de filles de construction, man, on serait dans la merde, pas à peu près. Là. Oui. Puis tu sais, des ouvriers... Tu sais, faut pas oublier qu'on est un tout puis qu'on dépend tous les uns des autres. Ouais. De toutes les manières possibles, là, on dépend tous les uns des autres. Puis comme ça, c'est important de le voir. Fait que oui, c'est le fun, l'entrepreneuriat puis tout. Mais comme tu dis, c'est-tu fait pour toi ou pas? Puis moi, j'encourage les gens à découvrir ce qu'ils aiment. Mm. Je dis pas aux gens, partez-vous en business, dites fuck you à tout le monde. L'attitude que j'avais était pas noble tant que ça. Tu comprends? Ouais. C'est juste que j'avais pas envie de me conformer. Probablement parce que j'ai des douleurs d'enfance qui faisaient en sorte que j'étais aucunement capable de tolérer l'autorité. Mm-hmm. Mais j'aurais aimé ça, la tolérer plus. J'aurais aimé ça, être plus longtemps aux études. Tu comprends? Fait que, looking back, là, si je regarde en arrière, ben, je me rends compte que, man, c'est important de tout considérer puis d'essayer des affaires puis d'être calme puis de le faire patiemment parce que tu vas trouver éventuellement, c'est sûr et certain. Il faut juste pas que tu aies peur d'essayer. T'sais.
C'est ça.
Comment tu sais, là, avec tout le discours que tu sembles avoir autour de la façon avec laquelle l'éducation était pas fonctionnelle pour toi, de la façon que c'était fait, c'est quoi ton approche? Parce que là, tu as une fille qui est rendu...
Trois
ans et demi. Qui va arriver dans le système d'éducation éventuellement. C'est quoi le... Comment t'appréhendes ça, mais comment tu vois ça arriver, sachant ta relation à toi avec le système d'éducation, puis la façon avec laquelle l'enseignement est donné aux jeunes qui parfois... puis moi, ça résonne beaucoup ce que tu dis dans mon expérience à moi. Là, moi, une chance que je suis en sport-études, sinon... je me serais jamais rendu secondaire 3, là, jamais. Fait que comment tu vois ça, mettons, maintenant, du point de vue du père?
Je dis souvent à Marie-Lou, qui est la mère de ma fille, contrairement à... J'ai déjà entendu une rumeur comme quoi Jeanne, c'était pas ma fille.
Ah ouais?
J'ai entendu des affaires.
Vous autres, les rumeurs, là, puis les magazines à potins...
Moi, je suis dans une secte, by the way. Il y a des gens qui pensent que Marie-Lou puis moi, on est dans une secte. Moi, j'adore ça. Quand je lis ça... je suis content de savoir qu'on occupe l'espace de l'esprit de certaines personnes.
Mais ça, c'est parce qu'il y a des... Il y a des personnes qui peuvent pas concevoir qu'un couple, ça va, ça s'en va.
Ah, mais
va,
c'est, je peux comprendre, termine. Man. Je peux comprendre. Je veux dire, c'est assez terrible en général ce qu'on voit dans les couples, les séparations, les divorces, les applications pour dater, le fait de consommer des personnes. Je peux, ouais. Moi, je comprends pourquoi ces gens-là pensent de même. Puis j'ai absolument
rien. Tu peux comprendre d'où ça vient.
Ça me forge pas pantoute, là. Mm. Ça me fait juste vraiment rire. Ouais, ouais. Fait que bref, pour ma fille, je dis souvent à Marie-Lou, j'ai dit, j'aimerais ça qu'on soit ensemble tout le temps, toutes les rencontres de parents, puis tout ça, parce que moi, j'ai eu des professeurs, des éducateurs spécialisés qui n'ont pas été fantastiques avec moi. Puis je veux pas les blâmer de rien, je veux pas les accuser, je vais jamais les nommer ou quoi que ce soit, mais j'ai eu des expériences à l'école qui étaient vraiment traumatisantes. On m'a accusé de vendre de la drogue, on m'a accusé d'être voleur, des choses que je faisais. Moi, la seule affaire que je faisais, c'est que je faisais le con dans classe pendant les cours parce que mm-hmm. je m'emmerdais. Mm-hmm. Fait que je me faisais des petits bonhommes en snowboard que je pichinotais sur le monde. Je faisais des dessins, j'écrivais des partitions de drum, mais j'étais pas délinquant, je me battais pas, je prenais pas de drogue. Tu sais, comme j'étais pas un délinquant, tu comprends? Puis dans ce temps-là, à l'école, t'avais bon élève ou délinquant. Fait que ouais. J'ai fait plusieurs écoles. Puis je dis toujours à...
Où est-ce que j'étais jamais le bon élève?
Jamais le bon élève. J'ai lâché, écoute, mon secondaire 5, je pense que j'étais allé 80 jours sur 190. Là. Puis le reste du temps, ma mère a motivé mes absences. Puis je jouais à Need for Speed au PlayStation. Mm. Pour vrai, genre, je faisais rien que ça. Parce que j'haïssais ça pour mourir.
Ta mère avait abandonné, elle disait, OK, lui, on est mieux.
Non, mais tu sais, il faut connaître l'histoire au complet. Ah. Peut-être un jour, je la raconterai, mais comme j'ai des affaires épouvantables. Genre, mes parents qui sont. Ils font venir mes parents à l'école, puis ils rencontrent mes parents sont comme, on pense qu'Alexandre vend de la drogue, puis mon père qui est comme, what the fuck, man? Mon fils prend même pas de drogue, tu sais, comme, mm-hmm. il n'y a pas question qu'il... J'avais jamais fait ça.
Ouais.
J'avais jamais fait ça, fait que tu sais, c'est vraiment rochant pour des parents, là, ben puis oui. En tout cas, bref, ça a été très, très loin après ça, dans la commission scolaire ou whatever. Fait que je dis à Marie-Lou, tu sais, puis on dirait que je suis comme un peu content d'avoir une petite fille, parce que j'ai l'impression, on dit que les garçons sont plus turbulents, je veux pas croire à ça, parce que je veux, tu sais, on parle beaucoup de l'égalité des sexes, puis on peut retrouver un comportement chez un ou chez l'autre, puis après ça, le spectre du genre et compagnie, c'est pas des choses avec lesquelles je suis très à l'aise, dans le sens où je connais pas ça beaucoup, qu'est-ce qui se dit, puis c'est quoi les bonnes affaires, puis tout ça, fait que... Mais je suis quand même content.
Notre expérience à chacun, il y a tout le temps eu plus de gars tannants dans les classes
que
de
filles. Moi, c'était tout le temps ça. Il y avait 5 Alexandre en 5e année, puis honnêtement, mon prof aurait eu besoin d'un gun pour nous gérer. Là. C'est même pas des jokes.
Voyage!
Pour vrai, sérieux, là, on était l'enfer, man. L'enfer. Puis je peux comprendre Alexandre. Pourquoi. Puis je le salue, je pense qu'il est encore en vie. Sylvain Basque, mon professeur de 5e année, que j'ai adoré, mais à qui j'ai fait vivre un enfer. Avec Alexandre Caron, Jonathan Pichette puis Sylvain Rousseau, on était genre un quatuor de la mort. En tout cas, bref, pourquoi je dis ça? Oui, c'est ça. Puis je disais à Marie-Lou, je veux qu'on rencontre des profs parce que je veux voir comment les profs vont gérer avec ma fille. D'un autre côté, je me mets à la place des profs aujourd'hui qui sont sous-payés puis qui ont des classes surchargées.
Ah oui.
Je peux comprendre. Écoute, moi, je donne des ateliers à du monde qui paye pour venir. Ils ont envie d'être là. C'est divertissant comme contenu parce que ça leur permet de repartir à la maison avec des connaissances qui sont intéressantes pour l'époque à laquelle on est. Puis je trouve ça rushant parce que j'en donne 2 par jour, 2 jours de suite. Fait que je fais 12 heures en une fin de semaine à 20 personnes, puis je parle non-stop pendant 3 heures. Je trouve ça, je suis pas épuisé, je suis pas en burn-out ou whatever, je trouve ça le fun, j'aime ça faire ça. Ouais. Mais faire ça à tous les jours devant une classe de 30 élèves qui n'ont pas envie d'être là pour la plupart,
ouais.
Oh man, moi, pour vrai, chapeau aux enseignants. Puis si mes taxes peuvent permettre, si nos taxes peuvent leur permettre de gagner plus cher, fuck, man, il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose parce que ça n'a aucun sens. Puis moi, je vais envoyer ma fille à l'école publique. Là. Il n'est pas question que je dise que l'école privée ou que c'est des élites puis d'en faire une... Tu sais, ma fille, elle fera bien ce qu'elle veut, honnêtement. Si elle veut devenir couturière ou qu'elle veut faire des bijoux pour les chevaux, je m'en crisse, je vais l'aider.
C'est calissement niche, ça. Niche,
okay, man, c'est l'affaire que j'aime le plus dire. Moi, je lâche tout, je vais faire des bijoux pour les chevaux. Ça me fait rire.
Je savais pas que ça existait, des bijoux pour les chevaux.
Ben, je pense pas que ça existe.
Mais man,
il y a peut-être une demande. Les gars, on se part un autre podcast.
C'est ça, mais non, on se part...
Le gars, c'est un pionnier dans tout.
On se part une entreprise de bijoux pour les chevaux. On se part un autre podcast parce qu'on parle.
On appelle ça Diamant Crinière. De quoi te fucker? Fait que tu sais, si ma fille veut faire ce qu'elle veut, elle va faire ce qu'elle veut, puis c'est pas un problème. Je veux qu'elle aille à l'école publique. On a un très bon système d'éducation. Je pense que c'est fait pour la majorité, c'est fait pour la moyenne, parce que plus tu es un gros groupe, plus tu ressembles à la moyenne. Donc, les gens qui sont aux extrémités, on parle des élèves surdoués ou des enfants qui sont sous-doués, ben je le sais pas encore, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été dans le système scolaire, évidemment. Je sais pas c'est quoi l'efficacité des ressources qu'il y a pour ces gens-là. Moi, j'étais surdoué à l'école, je tripais sur la musique, puis je m'emmerdais 100% du temps à l'école. J'avais pas de plaisir parce que je comprenais rapidement. Fait que quand je savais que je pouvais juste avoir 80 dans un examen, je checkais les questions que ça me tentait de faire, je calculais mon score, puis je faisais les questions, puis j'avais 80. Fait que j'aurais pu avoir 100, mais je m'encalissais, tu comprends? J'avais pas d'intérêt à être là. Je comprenais pas le concept. Mais tu sais, t'es un jeune garçon de 12-13 ans, tu passes par des changements, puis tout ça. Fait que c'est multifactoriel, le système d'éducation. On donne pas les ressources aux profs pour qu'ils aient du fun avec les élèves. Souvent, j'entends des histoires, j'ai des gens qui m'écrivent beaucoup pour se confier à moi. Je sais pas pourquoi. J'attire ça, j'imagine. Mm-hmm. Puis j'ai des profs qui disent, « Hey, si jamais ça serait le fun que tu me donnes 2-3 trucs pour la photo, j'ai acheté des affaires. » Puis j'ai comme, « De quoi t'as acheté des affaires pour tes... » Elle dit, « Ben, on n'a pas de budget à l'école, fait que j'ai acheté 2-3 affaires, tu sais, puis tout. Puis là, j'ai fait ça en fin de semaine. » Tu sais, la fille, elle a une famille déjà, elle a du temps à passer avec sa famille, puis la fin de semaine, elle prend du temps pour ses élèves qu'elle aime, qu'elle veut voir réussir. Mmh. C'est comme une vocation, puis on dévalorise la vocation des enseignants. Puis même affaire avec les infirmières, même chose avec les postes de gens qu'on a besoin. Moi, demain matin, là, il y a un bateau qui part pour aller sur une île où on repeuple la terre. Je suis pas là, là. Tu comprends? Je sers à rien. Si je fais des photos de cupcakes, man, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Tu comprends? Je suis drôle, je peux raconter des histoires, je peux faire des niaiseries un peu, mais c'est pas la chose la plus utile. Je ne suis pas la fondation d'une société en santé. Je suis la cerise sur le sundae, tu comprends? Je suis le gravy sur le steak ou whatever. Mais comme je trouve qu'on dévalorise beaucoup ces gens-là, puis j'ai peur de voir dans quel genre de système ma fille va être s'il n'y a pas de changements qui sont opérés rapidement. Parce que là, elle a 3 ans et demi. Fait que dans 1 an et demi, elle va rentrer à l'école. C'est sûr, la maternelle, première, deuxième, bon, je pense que ça va. Mais les profs sont loadés. Puis en plus, avec toute la question de la laïcité, est-ce qu'on va perdre des enseignants à cause de leur affiliation religieuse ou whatever? Puis ben, c'est pas un jugement. Faites bien ce que vous voulez dans la vie, mais comme je me demande dans quel système je vais envoyer ma fille. Fait que je sais que ma fille ne passera pas par les mêmes choses que moi parce que je vais lui apprendre de mes erreurs, mais je me demande ça va être quoi le système si on ne bouge pas plus pour adapter ce système-là au plus grand nombre de gens possible à l'extérieur de la moyenne.
Exact, ben oui, c'est ça. On veut tous trouver un système où est-ce que tout le monde peut développer son plein potentiel. T'sais, que tu sois dans la moyenne, que tu sois un surdoué, que tu sois justement, tu as des difficultés d'apprentissage. Puis là, j'ai l'impression que peut-être les surdoués, d'un côté, sont dans un système qui n'est pas adapté pour eux parce que ça devrait aller plus vite, justement, parce que là, sinon, ils s'emmerdent. Moi, j'étais comme toi, tu sais. Puis PH aussi, en fait, on était du monde qui avait quand même de la facilité, mais qui n'était aucune motivation. Puis que...
Puis surtout, valoriser ces jeunes-là qui, à l'école présentement, avec un cerveau qui est surdoué, s'emmerdent, mais se dévalorisent eux-mêmes. Oui, t'es bon, t'es le meilleur, puis tout, mais est-ce que ça te donne vraiment de confiance en toi? Moi, je pense que plus ou moins, parce que tu vois que t'es pas capable de te conformer à ça. Fait que je me dis, mettre à profit le talent de ces gens-là pour les gens qui apprennent moins rapidement. Mm-hmm. Essayer d'avoir des pères aidants. Puis sûrement qu'il y en a déjà. Je parle là, un peu à travers mon chapeau en ce moment parce que je ne connais pas les ressources qu'il y a dans les écoles. Puis je serais vraiment, vraiment curieux de le savoir. Mais je pense qu'on peut s'asseoir en gang puis brainstormer. Moi, c'est ma force, les idées dans la vie. Quand je brainstorm avec moi-même, je trouve plein d'idées. Comme j'ai des idées dans la vie pour un esti de paquet d'affaires qui n'ont pas rapport, là. Puis j'aime ça, les développer les unes après les autres, tranquillement, pas vite. Mais je me dis, hey, si on prend du monde brillant, là, une fin de semaine, on fait un congrès, on met tout ce beau monde-là dans une salle, puis comme il y a un micro au centre, puis viens nous donner tes idées. Ouais. Des professeurs, des gens sur le terrain, pas esti 2-3 personnes dans un cabinet à Québec ou à Ottawa qui disent, OK, bon, mais on a tant, puis on peut faire tant. C'est comme, qu'est-ce qui motive les jeunes? Qu'est-ce qui va les faire en sorte qu'ils vont vouloir être en santé? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un tu sais, comme, man, c'est les semences qu'on plante dans la terre pour comme faire pousser la forêt de la prochaine génération. C'est tellement important. Puis on s'en crisse.
Moi, je suis certain que ce que tu décris là, ça existe déjà. Là. Je suis certain que du monde qui se penche sur la question de okay, comment on peut améliorer le système, okay, comment on peut rendre ça plus efficace, comment on peut s'assurer la réussite de plus d'élèves possible. Je trouve que ça existe. Moi, je pense que la seule chose qui manque, c'est des ressources. Dans les écoles, il y a passé de psychologues, passé de tout, passé de ressources, de salaires, de gens, de fonds pour que tout le monde passe de local, tu sais.
Ben moi je pense
faut
que
juste
c'est...
que comme le budget total là, du tu sais de l'argent qu'on a là, la société, il faut en mettre plus là. C'est l'endroit le plus important, mais ben, tu sais. Puis en même temps, tout le monde dans tous les secteurs vont dire ouais, mais nous autres aussi on a besoin de plus d'argent. Puis là, tu sais, tout le monde veut tirer la couverture de son bord, c'est normal parce que on voudrait tous faire mieux dans son domaine respectif, mais s'il y a une job, comme tu disais, qui est sous-valorisé, c'est le job d'enseignant, c'est le métier le plus important dans une société.
Ouais.
Puis, justement, tu sais, ils se battent, ils sont en burn-out, les jeunes, ils commencent, puis après 2 ans, ils font « ce métier-là, ça n'a pas d'allure », puis ils partent en voyage parce qu'ils se disent « c'est pas la vie que je veux ». Non, mais tu sais, c'est vraiment rough, tu sais. Autant pour celui qui commence que ma tante, Esti, qui est au bord de la retraite à 65 ans, puis que... Ouais. Qui est fatigué, même plus capable.
Moi, je pense à ma prof de 4e année, Micheline, qui devait quand même assez âgée quand elle enseignait, une 60aine d'années. Puis, tu sais, elle a des discutes de 4e année qui veulent juste aller jouer dehors puis pitcher des balles de neige, je comprends. Puis, je me disais, pauvre Micheline, man. Aujourd'hui, je pense à elle, tu sais, puis je me dis, calvaire, elle était bonne. On était quand même une vingtaine, 25, 26, pas loin de 30 dans la classe, là. T'as 30 enfants à gérer. Puis, tu participes à petite échelle à ce qu'ils vont devenir dans le futur. Moi, une chance qu'il y ait eu des bons profs pendant mon parcours. Je me souviendrai toujours de ma professeure de 3e année. Quand je suis parti de Montréal puis je suis allé m'installer à Lachenaie avec ma mère, fait que ma mère, c'est à Lachenaie, c'est pas elle qui m'a suivi tant que ça, j'avais 7 ans. Là, mais...
Moi, je m'en vais à Lachenaie.
Ah ouais, viens-t'en. On s'achète un U-Warp, on s'en va. Puis je suis arrivé à l'école arc-en-ciel à Lachenaie, dans le Carrefour des Fleurs, qui s'appelle Terrebonne maintenant. Puis Béatrice, en 3e année, était tellement douce, cette madame-là. Elle comprenait. J'avais l'impression, ma douleur de petit gars qui voulait juste sauter ses murs puis faire plein d'affaires. Puis il était super douce avec moi. Puis ça m'a redonné confiance en les adultes. Mm-hmm. Puis un peu plus tard, au secondaire, Renaud Godette, mon prof d'histoire au collège Saint-Jean-Vianney, secondaire 1, mon gars, ce gars-là, il rentrait le premier cours qu'il donnait, il montait sur le bureau. Puis il criait « L'histoire, c'est la vie ». Puis moi, j'avais vu le film Dead Poets Society avec Robin Williams, qui fait un peu le même genre d'affaire.
Ouais.
Puis Renaud faisait ça des années avant. Il a toujours enseigné comme ça. Puis c'était un gars qui était dynamique. Puis ça m'a redonné confiance qu'il y avait des adultes, des gens dans la vie qui allaient me guider adéquatement parce qu'ils comprenaient le fait que j'avais de l'humour, puis j'avais du pep, puis j'étais effervescent, j'avais envie de tout faire. Puis ça m'a vraiment aidé. Mais autrement, sinon, ça aurait été long, en esti.
Le plus que j'ai eu quand je suis rentré au cégep, je suis rentré en sciences humaines, profil gestion.
Mm-hmm.
Puis je suis arrivé dans un cours de français, puis ça a duré une session. Après ça, je suis allé en arts et lettres, littérature, puis, jusqu'à la fin. Puis il y a un de mes profs en français, le cours obligatoire. Puis tu sais, les cours obligatoires, français, habituellement, il n'y a personne, ça y tente d'être là, tu sais. Puis le prof, il y avait de la misère à gagner la classe. T'sais. À semaine en semaine, il y avait de la misère à avoir l'attention de tout le monde. Fait qu'Anne est arrivé avec une guitare. Puis il a dit, quand que j'étais un jeune stagiaire, j'avais un prof qui m'a dit, quand la classe écoute pas, amène une guitare puis chante Jean Leloup. Puis là, il s'est mis à chanter les tunes de Jean Leloup puis on a analysé les textes de Jean Leloup. Puis moi, j'ai fait littérature.
Lui, il a compris. Hein?
Littérature, straight up. Puis après ça, j'ai fait, OK, puis la gestion, ça me fait chier. Ouais. Lui, il y a quelque chose là-dedans qui m'attire, que je trouve cool. Fait après ça,
il a scrappé ta vie. Est-ce que tu serais millionnaire?
Je serais millionnaire. C'est ça.
Milliardaire. Tu serais multitrilliardaire si tu étais resté au cégep en gestion, man. Qu'est-ce que tu fais?
Oui. Mon frère, moi, j'ai une autre anecdote de système d'éducation. Là. Mon frère, là, il tient son crayon, il écrit comme ça, OK? Tu sais, crayon, là, j'ai pas de crayon.
Ouais, c'est son pouce, c'est son pouce qui décide.
Puis là, il écrit comme ça, OK? Puis lui, il commençait à dessiner, man, il avait 1 an et demi, tu sais, puis il dessinait des pirates, man, puis des affaires, puis... Fait que tu sais, il maniait le crayon bien d'avant.
Il avait dessiné une carte de la Terre du milieu, man.
Ouais, il dessinait des affaires,
il dessine bien, en plus.
Il dessine vraiment bien, tu sais, il faisait des BD tout le temps, tu sais. Là, maintenant, il fait du cinéma, tu sais, ce qu'il fait encore, c'est storyboard. T'sais, il dessine moins qu'avant, mais il a vraiment un talent pour le dessin incroyable. Puis, fait que, il maniait déjà le crayon bien avant d'écrire.
Bien avant de se faire expliquer comment manier le crayon.
Puis là, il est arrivé en maternelle, première année, puis il se met à écrire. Puis là, les profs, mais non, c'est pas comme ça qu'on tient son crayon, c'est comme ça. Puis là, OK, essaye de prendre un crayon de même, ça marche pas. Puis la première année, deuxième année, la prof, non, c'est pas comme ça qu'on tient un crayon, comme ça. Jusqu'à ce qu'il pogne Nicole en 4e année, qui dit, ah, tu tiens ton crayon de même? Ça marche, fine. Garde ça de même.
Ben oui.
Puis tous les profs avaient essayé de changer sa manière, puis lui, il était pas capable, man, ça marchait pas. Puis là, à partir qu'il a pogné Nicole, qui a fait, genre, ta manière est différente, mais elle marche. Vas-y avec ça, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, là, les autres profs, ils l'ont laissé sacrée patience parce que Nicole, tu sais, avait comme dit.
Ben là, Nicole
avait
dit. C'est ça. C'est référence à Nicole,
tout le temps. Ouais, non, Nicole, moi,
si Nicole, elle dit, tu touches pas à Nicole. Non, c'est ça. C'est clair.
Je trouve ça de dire, Krim, tu sais. Parce que, tu sais, on dit l'école, c'est un moule, puis là, on se fait mettre dans un moule. Puis, tu sais, quand il y a du monde qui arrive, puis qui disent, c'est correct ta différence, man, tu sais, ouais. Genre, puis si ça marche pour toi, vas-y avec ça, tu sais.
Ben, absolument.
C'est cool.
Ouais. Absolument.
Vraiment, il y a à Bali, il y a une école qui s'appelle la Green School. C'est comme une école mondialement reconnue. Il y a beaucoup de parents qui ont des moyens, qui déménagent à Bali pour pouvoir donner cette éducation-là à leurs enfants. Puis apparemment, c'est comme une école vraiment... C'est vraiment free, genre free spirit. T'arrives là, puis là, les enfants, il y a des profs pour les aider dans leur cheminement, mais les profs sont pas là pour enseigner nécessairement. Fait que c'est comme le jeune fait un projet lui-même, puis le prof est comme une ressource, tu sais, pour développer ce qu'il a envie de développer. Ouais. Puis, tu sais, j'imagine que ça fonctionne s'il y a du monde qui y vont, s'il y a du monde qui continue à vouloir ça. Puis, je sais pas à quel point, tu sais, fondamentalement, le système est à revoir, tu sais, ou c'est juste le support, comme tu disais tout à l'heure, qui est à augmenter. Est-ce que notre système, parce que moi, je crois que de s'asseoir pendant 6 heures par jour pour un jeune, s'asseoir dans une classe, moi, je crois pas que c'est la façon de fonctionner, tu sais, puis je pense que ça, au-delà de, même si les profs, ils ont des meilleures conditions, même si tout le monde a une meilleure, un meilleur salaire, des meilleurs moyens, des meilleurs ressources, j'ai l'impression que le système de base est pas optimal.
Tu veux dire la manière d'acquérir l'information ou d'apprendre l'information?
Oui, c'est ça.
Ben, ça va dépendre.
Mettons, toi, là, t'es rendu un expert du tableau périodique, là.
Ouais.
Je suis persuadé que ça...
Il y a du monde meilleur que moi, là.
Non, mais je veux dire...
Neil deGrasse Tyson.
Je suis pas pire une semaine.
Je comprends, mais...
Je fais de la consultation, d'ailleurs.
Moi, ce que je me souviens de la chimie au secondaire, c'est l'expérience de la grosse crotte. T'en souviens?
Tu mettais de quoi, puis ça faisait une grosse crotte qui sortait.
T'en souviens-tu?
Ben,
c'était Michel au secondaire, man, dans le cours de chimie. Il a fait, OK, aujourd'hui, on va faire l'expérience de la grosse crotte. Là, il prend un élément, puis une autre affaire, puis il met ça dans un bécher, puis ça fait une réaction chimique, puis là, il y a une grosse crotte qui sort, tu sais. Puis c'est ça.
Mais,
puis tu sais, puis tout...
Ça, c'est la chimie, ça.
Ça, c'est la chimie. Puis comme toi, j'ai vraiment plus tard, je fais, hey, la science, c'est intéressant, c'est le fun. Puis là, je me suis mis comme à full apprendre par moi-même. Ouais. Mais au secondaire, tu sais, quand t'es jeune, c'est-tu que c'est dur de voir l'utilité derrière les choses que t'apprends, man? Ouais. Parce que tu sais, il y en a une, là, je veux dire.
Mais si t'es fasciné, par contre, c'est là que ça... Moi, j'étais fasciné par la science. J'ai fait sciences physiques, chimie 436. J'ai adoré ça, là. Je trippais ma vie de savoir combien il y avait de neutrons puis de protons dans les éléments puis comment ça fonctionnait, la masse atomique et compagnie. Mais comme ça m'est pas utile aujourd'hui, exact. Tu comprends? Ouais. C'est pas quelque chose que je vais me servir, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun de l'apprendre. C'est probablement un des cours qui me gardait là avec le français. Le français, je tripais ma vie. Puis ça, pour moi, c'est primordial. Je veux dire, c'est notre langue, il faut la préserver. Puis, tu sais, pour moi, la préservation de la culture française, de la langue française et québécoise ne passe pas tant que ça par la loi 101, mais bien plus par l'amour de la langue qu'on va transmettre aux élèves et non le fait de le crisser dans la gorge des immigrants. T'sais, pour moi, là, c'est bien plus comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu apprennes doucement à une personne à aimer une chose qui est extraordinaire. C'est extraordinaire, la langue française. C'est une des langues les plus complexes au monde. Puis comme elle est belle. Puis moi, quand j'entends une toune en français, n'importe quelle bonne toune en français défonce une excellente toune en anglais parce que c'est une langue qui est pas évidente à bien faire sonner de manière mélodique. Puis c'est fou l'important. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me tentait de le dire.
Ben non, mais c'est crissement intéressant, ça, de...
Ah, tu parlais de la chimie, c'est ça. Que tu trouvais que c'était pas... on trouvait que c'était pas important de l'apprendre puis qu'on a de la difficulté à trouver la pertinence.
Moi, ce que je disais, c'est que on dirait, je sais pas, probablement que les profs ont essayé de faire ça, mais j'ai jamais compris. Tu sais, mettons que ce soit dans le cours d'histoire. Tu sais, l'histoire aujourd'hui, je considère ça ultra important de connaître l'histoire du Québec, puis tu sais, l'histoire de l'humanité en général. Puis tu sais, je trouve ça, en tant qu'individu, puis en tant que peuple, de savoir d'où on vient, tu sais, ça permet de connaître mieux, savoir où on s'inscrit justement dans le monde, dans l'histoire, où on s'en va, puis tout ça. Puis. Mais à l'époque, Jacques Cartier, qu'est-ce que ça me donne de savoir ça? Ça va jamais me servir, tu sais. Puis tu sais, peut-être qu'il y a peut-être que le bout où est-ce que le prof te dit ça, d'apprendre ça, là, ça va te servir dans la vie à ça, tu sais. Parce que en tout cas, au cégep, on avait des cours de... Moi, j'étais étudiant en musique, dans le fond, au cégep, puis on avait des cours de littérature musicale, tu sais. Ça, c'est justement l'histoire de la musique. Ça part au Moyen-Âge. On apprend les chants grégoriens, l'époque baroque, l'époque classique, les romantiques, etc. Puis, la plupart du monde disent « Ça sert à rien, le cours de littérature musicale. Je vais aller pratiquer mon instrument. Ça va me servir, tu sais, tout ça. » Le prof, il avait dit sais, les cours de littérature musicale, là, c'est important. Ça vous donne une culture, un bagage musical. Puis faire de la musique, c'est pas juste être bon sur son instrument, c'est aussi connaître plein de musique. T'sais, pour créer, il faut connaître. Ça va faire que tu vas aller en entrevue, puis tu vas avoir une culture musicale. Tu vas être capable de parler de musique. T'sais, pas juste de ta petite affaire, mais tu sais, tu vas être capable d'aller chercher des éléments qui se composent d'un élément que Jean-Sébastien Bach, puis un élément de musique médiévale, puis tout ça, puis tu crées quelque chose d'incroyable avec ça, tu sais. C'est à ça que ça sert, l'intermission musicale. Puis j'ai fait, ah, oh, ben oui, c'est pas fou, Chris, ça sert
non,
à quoi?
Non, mais écoute, le plus t'as de culture générale, mieux c'est, selon moi.
Oui, tout le temps.
C'est juste que c'est pas nécessairement toujours utile, mais des fois, moi, quand justement, je réfléchis avec moi-même, là, puis je me fais des brainstorms.
Ça me semble arriver souvent.
Je vais loin dans mes affaires parce que, tu sais, j'ai lu des trucs. Moi, je suis un tripeur de National Geographic, documentaire. Ouais. Moi, je pose des questions à tout le monde, tout le temps. Quand il y a quelque chose que je connais pas, je pose des questions, tu comprends? Bientôt, en tout cas, je suis en train de mettre sur pied mon prochain. J'ai choisi le thème de mon prochain projet photo que je veux faire, puis c'est sur tout l'univers des personnes trans. Puis quand je dis l'univers des personnes trans, je veux pas dire qu'ils vivent dans un univers à part, mais je veux dire, c'est un enjeu pour moi que je connais zéro puis une barre, vraiment pas. Je sais pas comment on dit adéquatement, par exemple, une personne qui est née biologiquement un homme, qui est devenue une femme, est-ce qu'on dit une femme trans, est-ce qu'on dit que c'était un homme ou ça a toujours été une femme, mais là, il y a vraiment le corps qui il ou elle désire. Tu sais, comme, je le sais pas. Ouais. Fait que je vais aller poser des questions. Puis j'ai pas peur de me faire juger ou whatever. Je le sais pas, man. Puis pour moi, dans la vie, il y a pas de mauvaise question. Puis je trouve que des fois qu'on a peur, on est gêné de demander, tu sais.
On est gêné de dire je le sais pas. Tu sais,
surtout, par des sujets qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est touché, qui est chaud. Puis là, on se dit, ah, mais là, je vais pas utiliser un mot de peur de me faire reprocher de l'avoir utilisé, de peur de pas utiliser le bon terme.
Ou à l'inverse, je vais galvauder, je vais spinner sur un mot ou je vais faire du piggyback dessus pour me donner de la notoriété, pour faire semblant que je connais quelque chose ou pour faire du marketing. T'sais. Fait que c'est toujours un couteau à double tranchant de ce genre d'affaires-là, mais je trouve que c'est important de poser des questions dans la vie. T'sais. Puis moi, j'ai toujours été très, tu sais, on parlait d'adulte puis de modèle tantôt avec le prof Nicole de ton frère qui lui a dit ben, « tu peux écrire de même ». Je trouve que c'est important pour un enfant d'avoir des bons modèles. Puis moi, j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration pour les adultes parce qu'ils savaient tellement d'affaires que je me disais « wow, quand je vais être plus vieux, moi aussi, je vais savoir des affaires ». Puis moi, j'aime ça vieillir parce que je suis de moins en moins con. C'est ça que je dis à ma mère. T'sais. Puis j'ai des amis autour de moi qui sont comme « oh my God, je vais avoir 34, 35, je suis vieux ». Je suis comme « non, t'es pas vieux, man, t'es à peine dans l'affaire de l'âge ». À chaque fois que tu demandes à une personne de 60 ans « c'est quoi ta meilleure époque », ils sont comme « entre 45 et 50 ». T'as des sous, t'as du temps, puis ben, je veux dire, c'est pas pour tout le monde, là, je sais qu'il y a des exceptions, mais je veux dire, en général, tu sais, t'arrives dans une époque de ta vie où est-ce que t'es moins stupide. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai hâte d'avoir 50 ans pour que les gens me prennent au sérieux. Là, à 33 ans, là, je vais faire une conférence, puis je vais vous expliquer comment ça marche. Personne qui va dire « ah oui, bonne idée, esti. » Tu sais, comme j'ai rien vécu, là. J'ai des affaires exceptionnelles qui sont arrivées dans ma vie, mais pas assez pour prendre une audience puis dire « écoutez bien ça, la gang ».
Oui, c'est ça.
Fait que c'est un peu là aussi.
C'est ça que, tu sais, d'avoir... L'autre jour, on faisait un podcast avec Boucard Diouf, tu sais, puis il disait l'expression québécoise que je préfère, c'est l'expression « je vais me coucher moins niaiseux à soir ». C'est comme, c'est vraiment, tu sais, humble de dire l'état de base, c'est niaiseux.
C'est ça.
Tu peux juste être un petit peu moins niaiseux.
Oui, exactement.
Ouais. C'est ça la vie. Puis quand t'as la drive... Tu sais, je pense que toi, t'es de même, moi, je suis de même, d'avoir la drive d'apprendre à tous les jours, tu sais, puis de dire, je connais pas grand-chose, mais à soir, j'en en savoir un petit peu plus qu'hier, tu sais, qu'hier. Puis qu'à chaque jour, justement, tu te couches moins niaiseux, tu sais, puis à un moment donné, justement, à 30, à 40, à 50, c'est comme l'expérience, ça a une valeur, tu sais, puis...
Puis on parle souvent de connaissances matérielles, dans le sens où on apprend l'histoire, on apprend le français, on apprend les mathématiques. Mais je trouve qu'on est de moins en moins porté vers les connaissances spirituelles. Puis là, je veux pas parler de cristaux et de chakras
bon,
et compagnie.
Il va nous parler de cristaux.
Bon, il va encore sortir son
fait que c'était tout le temps qu'on avait.
Et voilà,
il va sortir son tarot. Il va
tirer au tarot. Ouais, moi, ça me fait halluciner, man, qu'on chiale autant.
Il est dans un système pyramidal avec des cristaux.
Mais...
Il les amène sur le podcast. Justement, les gars, si
justement,
vous me donnez 50$, vous avez le droit d'en vendre.
Mais vous trouvez deux autres personnes qui vous donnent 50$.
Mais Sérieux, tu trouves pas que l'astrologie, ça revient à mode? Il me semble que tout le monde parle de ça.
Hey, d'autres, veux-tu qu'on en parle? Ça met en tabarnak. Hein? Parce qu'il y a tellement de gens qui fustigent la religion, mais qui vont dire, ouais, je sais pourquoi je suis même aujourd'hui, marche en Capricorne. Fuck you, esti. Premièrement, c'est basé sur une carte du ciel qui était bonne il y a 1000 ans, OK? On s'entend, là, parce que qu'est-ce qui arrive dans l'univers, c'est que les choses bougent et elles tournent. Fait que ça veut dire que la carte du ciel sur lesquelles ont été basés ces principes-là, ça n'existe plus, c'est plus de même. Fait que ça veut dire que tu as à peu près un mois de décalage environ sur ce qu'on dit pour vrai. Ensuite, pour moi, c'est pas de la spiritualité. Le hasard et les affaires de même, comme tu peux pas les contrôler. Tu sais, le tarot, le dire, OK, bon, mais moi, il y a juste une affaire, par exemple. Ma mère est allée voir une voyante, puis la voyante, elle a dit à ma mère.
Ça, par exemple, j'y crois. Ah,
non, non, mais je sais pas si j'y crois, tu comprends, mais je suis un peu subjugué parce que la fille, elle a dit à ma mère, first, elle connaît pas ma mère. Ma mère, elle rentre, elle dit, ta belle-fille est enceinte, puis elle est comme, what the fuck, qu'est-ce qu'on l'avait même pas dit encore. On l'avait pas dit publiquement que Marie-Lou était enceinte. Ensuite, elle dit, elle va naître le 17 décembre. Entre 7h et 10h le soir, puis ça va être une fille. Fait que, tu sais, ça va être une fille, c'est correct. T'as 50-50% de chance de l'avoir. Mais la journée puis l'heure, alors que Marie-Lou était due pour le 25, je pense, la journée puis l'heure, mon gars, Jeanne est née à 9h le 17 décembre le soir. Je regardais l'horloge, puis je shakais. J'étais comme, non, ça se peut pas, man. C'est impossible qu'elle ait été. C'est-tu du hasard? Je le sais pas. Tout ça pour dire que je trouve qu'on s'est éloigné des connaissances spirituelles. On a enlevé les moments où on se rassemblait pour communier, être ensemble, se dire « Hey, je trouve que ton comportement, il est ordinaire. » Tu sais, comme, y a plus, on n'a plus l'Église, on n'a plus la religion, puis c'était quand même la dernière ressource qu'on avait de rassemblement. C'est sûr que c'était dirigé par des personnes qui avaient des intentions pas vraiment noble nécessairement. Tu sais, quand tu fais vœu de pauvreté, tu es un évêque, mais tu as une bague qui vaut 20 000 $ puis tu dis aux gens, tu sais, restez pieux, puis nanana, puis toi, tu as des sauts de
puis tu fais un vœu de chasteté, puis tu es à main longue.
Puis tu es avec des petits gars, puis ces affaires-là. Ouais. Fait que, tu sais, ça, je peux comprendre pourquoi les gens ont repoussé la religion, mais à mon sens, à moi, on a jeté le bébé avec l'eau du bain parce que je pense que c'est important de se rassembler en gang, puis de se dire nos vérités, dire comme, j'ai n'importe quoi, on est collègues de travail, puis dire comme, hey, PH, j'haïs vraiment ça quand tu fais des jokes sur mes cheveux. Non, je te dis n'importe quoi. Puis comme ça, c'est spirituel. C'est spirituel de parler aux gens de leurs défauts puis d'espérer d'eux qu'ils travaillent sur leurs qualités. Mais aujourd'hui, ça passe par des affaires qui n'ont pas de bon sens. Genre, je veux pas dire que le yoga n'a pas de bon sens, mais tu sais, je fais du yoga, je suis vraiment une meilleure personne. Non, tu es juste plus flexible. Comme la spiritualité, c'est le travail de l'esprit. Ouais. Puis si on pouvait promouvoir autant le fait de travailler sur son esprit, la thérapie, des livres, des médicaments pour certaines personnes qui en ont besoin pour bien fonctionner en société, puis leur donner un coup de main pour les ramener avec nous autres. Autant qu'on promouvoit le fait d'avoir des abdos puis des boules en béton, ben man, on serait tellement une bien meilleure société parce qu'on ne dit pas ça beaucoup à nos enfants. Là, on commence à parler d'anxiété. Moi, j'ai commencé à faire des crises de panique, j'avais 18 ans. J'étais un extraterrestre, mon gars. Les gens étaient comme, t'es fatigué. J'étais comme, non, je suis pas fatigué. Pendant une heure,
une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Cette semaine, le Sans filtre est encore une fois présenté par Terrien. Terrien, c'est un bureau de comptable, ça fait plus de 25 ans qu'ils existent, puis ils offrent leur expertise à des PME, en fait, de 1 à 100 employés, des petites et moyennes entreprises qui œuvrent dans des domaines d'innovation, que ce soit, par exemple, les jeux vidéo, des créateurs web, biotechnologie, même nous.
Ouais, c'est ça, on est allé les rencontrer, les Terriens, ils sont super fins.
On est allé rencontrer les gars de chez Terriens, puis pour nous-mêmes faire recours à leur expertise, en fait.
Exact.
Puis ça va nous faciliter la vie parce qu'on s'est pas lancé dans le studio SF pour faire de la comptabilité, puis pour, en fait, gérer des trucs qu'on n'a aucune expertise dans le domaine. Puis c'est vraiment le fun parce que eux, c'est un petit bureau de comptable qui, au contraire, des grandes firmes vont prendre vraiment votre cas de façon humaine, puis ils vont vous traiter comme des personnes et non juste des chiffres. Ils offrent un service clé en main, que ce soit pour la tenue de livres, les états financiers, les rapports d'impôts, les demandes de crédit d'impôt. Je sais que nous autres, ça va nous aider beaucoup à s'enlever un poids sur les épaules dans notre entreprise qui est le Studio SF. Puis on vous offre également un code promo. En fait, je l'ai ici, c'est sans filtre. Lorsque vous allez prendre votre rendez-vous, vous allez sauver 50% sur votre première année financière, ce qui est quand même très considérable. Vous allez pouvoir prendre cet argent-là puis l'investir ailleurs dans votre entreprise, ce qui est l'objectif de toutes les entreprises. Donc, merci beaucoup à la gang de Terrien Terrien qui sont un sponsor important dans le monde du podcast au Québec. Puis, on est très reconnaissant de votre appui. Sinon,
cette semaine, on a reçu Alexandre Champagne, un gars qui est quand même qui est connu, là, qu'on connaît pour différentes raisons. Moi, je l'ai connu d'abord, on en parle dans le podcast, avec les capsules humoristiques contre de gars. Ouais. Quand j'étais plus jeune, on écoutait ça, on trouvait ça vraiment drôle. Puis beaucoup l'ont connu avec 3 fois par jour. C'est le photographe Alexandre Champagne qui travaille avec son ex-copine Marie-Lou, son ex-femme même, je dirais, sur ce projet-là, qui ont complètement monté ce projet-là de A à Z.
Ouais.
Après ça, maintenant, en fait, il photographe, il a son studio de photos, il donne des ateliers. Il avait sorti un livre sur la photographie, sur comment prendre des belles photos avec son téléphone cellulaire. Mm-hmm. Quelque chose qui peut bénéficier à tout le monde. Je pense que tout le monde veut prendre des belles photos avec son téléphone cellulaire. Un gars, c'est vraiment un réel plaisir de l'avoir au podcast. C'était super facile à interviewer. Le gars, tu poses une question, il peut partir pendant 20 minutes puis parler. Mais il est super intéressant, il s'exprime super bien. Puis c'est un gars qui a un parcours, justement, qui a fait plein d'affaires qui ont fonctionné. Toutes ces affaires-là ont fonctionné, mais des affaires vraiment différentes. Fait que vraiment un entrepreneur intéressant. Quelqu'un a quelque chose à dire. On a parlé de santé mentale aussi. Lui, comment il a réussi à travailler ça puis à guérir des blessures qu'il avait puis à améliorer sa santé mentale, finalement. Donc, super beau podcast. Encore bien content.
Ouais, puis Alex, c'est aussi un gars qui redonne beaucoup aux gens dans le besoin, là, que ce soit pour des causes comme le défi sans alcool 28 jours en février. Je sais qu'il a donné beaucoup de ses droits d'auteur pour aider justement la lutte contre l'alcoolisme. C'est vraiment une personne qui redonne à la société, puis c'est une super belle conversation. Si vous nous écoutez en ce moment sur Balado, n'oubliez pas de nous laisser un rating de 5 étoiles, ça fait son bout de chemin, un commentaire. Si vous nous écoutez sur YouTube, un commentaire également. Abonnez-vous à nos chaînes, suivez-nous partout. On a lancé maintenant un deuxième podcast qui s'appelle le Sans Filtre VIP, qui est disponible seulement sur notre plateforme Patreon. Donc, si vous n'avez pas assez de Sans Filtre à chaque semaine, allez sur notre plateforme Patreon. Le lien va être dans la description du podcast. On reçoit le plus souvent possible des invités qui sont moins connus du grand public, mais qui sont tout aussi intéressants. Donc, si vous êtes des fans de podcast, vous voulez écouter plus de Sans Filtre, dirigez-vous vers la page Patreon. Sinon, le Studio SF, on continue à produire des podcasts de grande qualité à chaque semaine. J'ai du temps de discute, notamment. Adamo, le temps d'un jujube avec Adamo. D'autres podcasts à venir. Et je pense qu'on a déjà assez parlé trop longuement. Puis on va laisser la parole à Alexandre Champagne. Donc, bon podcast.
Bonne écoute.
Il
n'a pas dit le 1, c'était carrément.
Il est bien drillé.
Félicitations tout le monde. Toute l'équipe.
Il a réussi,
Hey, Alex, merci d'être là, man.
Ça me fait plaisir.
Salut, man.
Ça aurait été un long time coming.
Je sais, on s'est forcé, on a essayé des dates. Tu m'appelais, je répondais pas, je t'appelais. Ouais. En tout cas.
Toi, on l'a eu, man.
Moi, je répondais. Toi, t'étais plus difficile à rejoindre quand même.
Ah ouais, man. Je suis vraiment pas une personne. Ouais, ça, je suis pas une personne facile à rejoindre.
J'y croyais pas encore avant le 3-2-1. Puis là,
c'est pas qu'il y a eu le 3-2-1. Imagine à 2, il s'en va. Si j'avais un meeting, j'ai oublié.
J'avais oublié de vous dire, les gars.
J'avais oublié de vous dire.
Mais j'avoue, occupé comme tu me sembles être, sans gérant, man, ça va être insupportable.
Ben non, je suis pas si occupé que ça. C'est comme un mythe qui m'entoure, I guess. Les gens se disent, on sait que t'es occupé, mais je dis, non, je suis pas occupé pour vrai.
Arrêtez de me dire que je suis occupé.
Non, mais depuis le mois de décembre, je te dirais, j'ai pogné une solide grippe au mois de décembre. Genre, ça fait une vraie grippe là, de fièvre, puis tu shakes, puis tu rêves à des bombes, puis des affaires là-même.
Je sais pas
si la partie des rêves, c'est attribuable à la grippe en tant que telle.
Je faisais
de la fièvre hallucinante. En tout cas, j'hallucinais des affaires. J'ai vraiment été malade. Puis j'ai comme réalisé que j'avais fait la plus grosse année de ma vie en 2018. J'ai vraiment, vraiment travaillé beaucoup à tous les niveaux. Ça a été extraordinaire. Ça a été au-delà de mes attentes. Puis au lieu de me galvaniser, ça m'a fait peur un petit peu. Parce que je me disais, j'ai été très chanceux. C'était comme ma sortie 3 fois par jour. J'avais besoin en quelque part de démontrer que j'étais capable d'être on my own.
Mm-hmm.
Puis j'avais mes ateliers. J'ai été porte-parole du World Press. J'ai fait plein d'affaires. J'ai fait beaucoup de contrats. J'ai refait l'image, toute l'identité visuelle de la cage au complet, en photo de bouffe. Fait que, j'avais des grosses affaires. Puis j'ai réalisé, après l'histoire de Caroline Néron, qu'on connaît tous, que ça pouvait arriver à tout le monde, une bad luck, où personne n'est à l'abri de la malchance. Puis je me suis dit, je pourrais pas rouler toute ma vie sur une réputation puis sur un truc qui va être repris par quelqu'un d'autre éventuellement, puis qui va, tu sais, qui est accessible à tout le monde. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis en ce moment, j'ai des projets, tu sais, j'ai mon studio pas loin d'ici, je fais des photos, je reçois des familles, je donne des ateliers, mais j'ai comme deux ou trois gros projets qui sont en train d'incuber, puis je prends vraiment le temps pour ça. Je prends aussi du temps beaucoup pour ma famille, mes amis, des choses comme ça. Je veux travailler sur mes relations interpersonnelles, je veux travailler sur ma vie personnelle, parce que je l'ai délaissé pendant vraiment, vraiment longtemps au profit de mon entreprise avec Marie-Lou, trois fois par jour, puis au profit de, des sous en grosse partie, parce que c'était mon rôle chez trois fois par jour. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que...
T'étais le trésorier.
Je bois comme le money getter, si on veut, tu sais, mais pas dans le sens j'étais juste au cash, mais j'essayais de trouver des manières créatives de faire entrer des revenus, mais principalement pour payer les gens qui travaillaient avec nous, pas pour se payer genre des boules en or puis des bijoux dans des coffres, là. Des boules. Non, mais moi, j'ai toujours dit que si jamais je gagne, mettons, 60 millions, ce qui arrivera pas parce que je joue pas à la loterie, mais je vais m'acheter une boule en or. Puis là, on parlait de ça avec mon éditeur de livres, Antoine Rostrump. Puis là, il dit, sais-tu, c'est gros comment une boule en or de 60 millions? J'étais comme, non, ça doit être genre gigantesque. Puis il fait, non, ça doit comme mesurer maximum 50 cm de haut. Tu sais, fait que t'as l'impression que, mettons, 60 millions d'or, c'est genre une gigantesque boule, mais c'est juste comme, mettons, un ballon Dominicain divisé en deux.
la moitié d'un ballon.
Tu pourrais faire une boule de quai en or, puis aller jouer au quai avec ta boule, man, ça serait hot.
Ouais, plus ou moins, c'est quand même assez malléable, l'or. C'est trop soft pour faire ça. Ça va te prendre quelque chose de plus dur. Ah, tu le savais pas, hein?
Non.
C'est un élément qui est très mou, l'or.
As-tu fait des quais dans ta vie?
Non.
OK. T'es juste un expert de l'or.
Je suis ben en fait, moi, j'ai un gros... ça, c'est weird, man. Je suis un gros fan du tableau périodique.
Ah ouais, hein?
Les éléments, puis ces affaires-là.
C'est lequel ton préféré?
Oh my God, man. Tu peux pas me
l'uranium?
Faire ça.
Deux bonnes questions.
Ben non, l'uranium, quand même, parce que c'est assez particulier comment on fait pour extraire l'isotope d'uranium dans une centrifugeuse qui va jusqu'à 70 000 RPM. C'est full intéressant. Mais l'uranium, en tant que tel, il est pas... Moi, je préfère comme toute la partie en bas, les éléments qui ont été découverts après, qui sont des éléments synthétiques, comme l'einsteinium, ces affaires-là. Mm-hmm. Ça, je trouve ça fascinant. Puis tu savais que tu pourrais pas, sur un mur, faire tenir un morceau de chaque élément, un à côté de l'autre. Tu créerais la fin du monde en faisant ça. C'est full intéressant.
Mais c'est ça, tous ces éléments-là, ils se défont en une fraction de seconde. Là. Les
pas
éléments, les éléments créés en laboratoire. Là.
Je pense que oui. Je suis pas trop connaissant de ceux-là, mais les autres, tu sais, ça existe en matière physique, à part, mettons, les gaz, là, qui sont un peu tough à mettre dans ta main. Mais tu pourrais pas les mettre un côté de l'autre. Tu créerais une fission nucléaire qui aurait pas de bon sens, puis un chain reaction qui ferait exploser la planète Terre.
Ah ouais, hein?
C'est fou qu'il n'y ait pas comme un docteur Terreur qui avait ça en objectif.
Ouais, ben c'est.
Moi, il me semble, mettons que j'ai un cerveau twisted, puis là, j'apprends cette nouvelle-là, je fais comme, man, c'est la façon de mettre la fin du monde.
Puis ça serait un meilleur méchant dans James Bond, parce que plus ça va, plus les méchants dans James Bond sont soft. Il y a un gars qui voulait comme empoisonner l'eau. C'est comme, mais comment, dude? T'es fait sauter de quoi?
Il y a vraiment des manières plus efficaces, là.
Ouais, d'être un vilain, tu sais.
Ouais, c'est ça. Man, mais moi,
on est comme parti, ça.
Mais non, mais sinon, ça va super bien. Je suis pas si occupé que ça. Je prends beaucoup de temps pour ça. J'ai mon site web. Hey, je suis en train de me faire un site web où je vais mettre tous mes projets photos parce que là, tout ça tient dans Instagram. Je vais aussi mettre à vendre des filtres puis des bases de retouches pour les gens qui veulent apprendre la photo. Toutes mes formations, je vais les faire en vidéo aussi pour tout le monde qui veut les avoir partout à travers la province. Je vais peut-être les faire en anglais aussi.
Est-ce que tu vas vendre des photos imprimées en cadre?
Peut-être.
Ouais,
peut-être que je vais faire des prints, mais peut-être pas non plus.
Print, c'était le mot que je cherchais pour éviter de dire.
De dire des photos dans des cadres. C'est comme quand tu dis l'affaire pour manger de la soupe, mais tu vas dire c'est cuillère.
C'est exact. C'est exactement.
Ouais, c'est ça. Ben, peut-être des prints, je sais pas. Je pense pas que mon art est rendu à ce niveau-là. Je me considère comme un photographe average. Je suis bon, je fais des bonnes photos.
Les prints, c'est comme le step. Quand t'es hot, t'as des prints.
Ben, tu peux faire des prints n'importe quand.
moi, je pourrais faire des prints.
Tu pourrais faire des prints.
Ça, c'est un print? Ça, c'est un print?
Ça, c'est une toile.
Ah.
C'est pas tant. Ben, c'est un print avec de l'aquarelle, I guess. Je sais plus, je pourrais pas, je le vois mal d'ici, mais. Non, mais n'importe qui peut faire des prints. C'est juste que je trouve que, tu sais, d'offrir une photo imprimée, pour moi, c'est un processus. C'est, C'est plus grand que juste faire comme j'ai fait un beau coucher de soleil, moi, te le mettre sur un papier, puis je vais te le vendre parce que je m'appelle Alexandre Champagne. T'sais, moi, je travaille jamais sur mon nom, sauf pour évidemment inviter des gens à mes ateliers parce que bon, je montre ce que je suis capable de donner comme résultat et donc pourquoi je suis en mesure aussi de l'enseigner. Mais tout le reste, je ne joue jamais sur mon nom. Je veux vraiment miser sur la qualité de mon travail. Puis en tant que photographe average, il y a des photographes au Québec qui sont mille fois meilleurs puis qui font ça de leur vie puis qui travaillent fort. Moi, j'ai un bon talent, mais je me considère plus comme un gars d'affaires aussi, puis un gars de stratégie, puis un créatif, un créateur, plus qu'un photographe comme tel qui va faire ça de sa vie. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, je suis un peu en meeting, brainstorm avec moi-même pour savoir ça va être quoi mon prochain projet, mais en même temps, je fais des choses qui me plaisent, comme par exemple recevoir des familles, je prends des enjeux sociaux dont je parle à travers des reportages photos, des choses comme ça. Ça me fait vraiment triper.
Moi, quand tu as fait ton annonce que tu changeais de studio, puis que tu vendais tes surplus matériaux pour redonner, man, j'ai trouvé ça insane. Ouais. J'ai trouvé que c'était un discours qui s'éloignait tellement de la tendance populaire qu'on tient en tant que société de juste faire mon succès s'établit pas en matériel, c'est rien. Puis tu avais même l'humilité de dire mon trip d'ego, je l'ai déjà vécu, puis j'en veux plus, là. Mais c'est pas ça m'amène rien de plus, tu sais.
Non, vraiment pas. Puis c'était carrément ça, là, tu sais, je veux dire. Puis en même temps, ça n'enlève rien aux gens qui décident d'acheter des voitures ou des choses avec leurs sous. Tu sais, ça prend une certaine liberté économique dans une société pour que ça fonctionne puis pour que les gens aient envie de redonner. Autrement, ben il y en a qui s'en vont vers des paradis fiscaux, des choses comme ça. Fait que je trouve que la liberté économique qu'on a est bonne, elle pourrait être meilleure, mais elle est quand même bonne. C'est juste que le choix personnel que j'ai fait, c'est de m'éloigner de ces affaires-là. Un de mes grands gars favoris au monde, c'est Keanu Reeves. Keanu Reeves, en secret, a financé pour 80 millions de dollars des hôpitaux pour enfants. Ouais. C'est un gars qui prend le métro, c'est un gars qui, tu sais, il s'en fout. Puis
les histoires commencent à sortir de Keanu Reeves dernièrement. Là.
Puis pas que je veux...
C'est le nouveau héros d'Internet, en fait. Ah, ouais.
Non, mais c'est un gars qui est extraordinaire. Puis c'est un gars qui, tu sais, je veux dire, sa fortune est un million de fois plus grande que la mienne. Là. C'est pas ça, je veux pas comparer, mais tout est dans l'attitude aujourd'hui, tout est dans l'intention. T'sais, tout le monde peut devenir photographe, tout le monde peut avoir un podcast, tout le monde peut faire n'importe quoi. Tout est rendu accessible. On a démocratisé l'accès au fait de s'exprimer, au fait de communiquer des choses à tout le monde. Fait que moi, je pense que ce qui prime là-dedans, c'est les intentions que tu as derrière. Moi, c'est sûr que je trouve ça le fun dans ma Tesla quand je me fais faire des thumbs up par tout le monde sur la rue parce qu'ils trouvent ça écœurant de voir un char électrique, charcoal molle et vite teinté, on dirait le char de Batman. Mais moi, personnellement, ça ne m'apporte rien. T'sais, ça ne me donne rien de faire ça parce que la personne que je vais croiser, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Puis j'ai un thumbs up pour un morceau de métal que j'ai réussi à payer parce que j'ai eu le privilège puis la chance d'être né dans une bonne famille, d'avoir rencontré Marie-Lou, d'avoir été entouré d'une équipe extraordinaire qui m'a permis de faire des sous. Fait que je me dis, tu sais, tout ça, c'est comme du vent, puis c'est de l'énergie aussi. Tu sais, veux pas, quand tu as un niveau de vie à ce niveau-là, même si tu fais des sous, puis dépendamment de combien tu fais, mais même si tu fais des sous, c'est des dépenses quand même. Je regarde les sous que ça coûte, puis je regarde ce que je pourrais faire sur le side avec ça pour aider d'autres personnes, puis je me dis, je pense que c'est mieux investi de ce bord-là. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça le fun d'avoir des voitures. Toutes les voitures que j'ai voulu avoir dans la vie, je les ai eues. Puis là, c'est comme fini. Je me dis, j'ai 33 ans, je vais m'ennuyer en esti à 40 là, si je continue à faire ça.
Ouais.
Puis peut-être qu'à 40, si j'ai mal géré mes affaires, il m'arrive une bad luck, j'aurai plus une scène. Parce que peut-être que les gens, Alexandre Champagne, les photos, ils vont faire comme, on a fait le tour, tu comprends? Mm-hmm. Fait que je pense qu'il faut pas se prendre au sérieux. C'est le fun quand ça va bien, tu sais. Sauf que tout ce qui monte redescend, je pense à des photographes que je connais qui sont extraordinaires, qui ne travaillent plus aujourd'hui parce que, ben écoute, la tendance est passée, puis c'est rendu quelqu'un d'autre. Puis les gens se succèdent, des choses comme ça. Fait que je me dis, je veux réduire mon niveau de vie de un parce que j'ai envie de prendre mon capital puis de l'investir sur des projets sociaux que je veux faire. Puis ensuite de ça, ben pour mon niveau de vie, j'ai plus envie là, d'emmener large, tu comprends? J'ai envie d'une petite vie simple puis de me servir le plus possible de mes ressources, autant mes connaissances, ma visibilité, mes sous, pour mettre ça au profit de choses qui comptent plus pour moi. Mm. Puis après ça, ben si ça inspire d'autres gens à faire la même affaire, tant mieux. Mais c'est vraiment pas une leçon ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est mon choix personnel à moi.
Est-ce que t'as senti dans ce changement-là une espèce de légèreté?
Ah ouais, man. Dans
ton être?
Ouais, je me suis remis à dormir. Parce que moi, j'ai toujours été un gars qui dormait super bien. Puis à partir du moment où il est arrivé l'histoire avec Caroline Néron, je me suis mis à faire de l'insomnie.
Ouais.
J'ai fait ça parce que j'étais comme... j'ai vraiment été cocky en faisant ça. Je me mêlais pas de mes affaires. Il y a une chose que j'ai gardée de ce discours-là, puis c'est l'histoire des taxes. Les taxes que tu perçois, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu deviens un collecteur pour le gouvernement. L'argent que tu as des taxes, tu dois le redonner absolument, soit aux 3 mois ou à l'année. Ça, pour moi, c'est primordial. La meilleure forme de philanthropie au monde, c'est de payer ses impôts. Fait que quand j'entends des personnes qui sont extrêmement riches, qui veulent être encore plus riches en allant dans les paradis fiscaux, je trouve ça dégueulasse parce que c'est de l'argent qui va servir à tout le monde. Pas juste les gens qui mangent pas, pas juste les gens qui sont malades, pas juste telle catégorie. Ça sert à tout le monde, à toi, à toi, à toi. Ça sert à tout le monde. À un moment donné dans ta vie, tu vas avoir besoin d'aide, tu vas peut-être avoir besoin d'un coup de main, une subvention, d'aller à l'hôpital ou whatever, puis ça va être payé grâce à des gens qui font des sous. Merci aux personnes qui sont plus fortunées, évidemment, parce qu'ils ramassent une bonne partie de la facture sociale. Mais moi, je pense que c'est fou l'important. Fait que cette partie-là du discours, j'aurais pu la formuler beaucoup mieux, puis j'aurais pu ne pas m'attaquer personnellement à Caroline. Ouais. J'aurais jamais souhaité qu'elle fasse faillite. T'sais, moi, je souhaite pas l'échec des gens. Je suis pas quelqu'un qui est compétitif. Je suis pas quelqu'un qui est amer dans la vie. Mais j'avais eu une super bonne année. J'étais un peu cocky de ce que j'avais réussi à faire. Puis quand j'ai vu ça, j'ai juste comme frappé. Ben, l'autre affaire aussi, c'est l'apparence, c'est le statut ou la glorification des entrepreneurs. T'sais, le gars, il hustle, il se lève à 5 heures, il s'entraîne. C'est quoi les 10 habitudes des gens millionnaires? Puis je vois ça sur Instagram, puis je trouve ça débile. J'ai peur, mettons, de ce que ma fille va faire de cette information-là qui est complètement ridicule. Je veux dire, oui, tu peux devenir millionnaire. C'est pas interdit à personne de devenir millionnaire, mais c'est pas tout le monde qui part de la même place. Puis est-ce que tu veux vraiment être millionnaire? C'est tout ça ton but d'avoir beaucoup de cash? Il y a tellement d'affaires fausses qui roulent sur Internet, des entrepreneurs qui font des speeches de motivation. Ils ont 21 ans, ils n'ont pas eu d'échec dans la vie. Je trouve ça un peu débile. Fait que c'est un peu ça que je voulais... défaire, où je voulais commencer la discussion. Puis malheureusement, j'ai fait quelque chose qui n'est vraiment pas dans mes habitudes. Puis j'ai pris une personne à partie. Puis j'ai mis cette personne-là dans le milieu de mon affaire. Puis je le regrette. Tu sais, Caroline, c'est une fille qui est gentille. Elle a fait ses choix dans la vie. Puis elle a fait ses affaires. Puis c'est pas à moi de juger. Puis j'ai regretté ça. J'y ai parlé. On s'est excusé. Elle me porte pas dans son cœur. Puis c'est tout à fait normal. Puis j'y en veux pas pour ça. Mais j'aurais dû fermer ma gueule. Pour vrai, ouais, looking back, là.
Je pense que c'est que ça. Son exemple à elle représente un peu ce que tu viens d'exprimer par rapport à l'espèce de glorification du statut plus que de l'entreprise comme telle, tu sais. Plus comme l'entrepreneur au-delà de l'entreprise, tu sais.
Puis... C'est sûr qu'elle rendait beaucoup sur sa notoriété, son image, puis tout ça, plus ça. Que
mais
peut-être...
Mais c'est correct, tu sais, t'as le droit de faire ça. Nous, c'est exactement ça qu'on a fait pour 3 fois par jour. Fait que je peux pas blâmer une personne s'être servie. Puis, je veux dire, ça marchait, ses affaires. Puis, il y a des gens qui aiment ce qu'elle fait. Puis, ces trucs, c'était de la qualité. Puis, je veux dire, faut pas, tu sais, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là.
Oh, ouais.
En même temps, il y a quand même une différence. Tu sais, mettons qu'on garde les deux exemples de créer une entreprise comme 3 fois par jour, même si tu utilises des noms pour la créer, mais ça reste quelque chose qui est à part. C'est pas.
Je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est une passe, ça balade.
J'ai jamais vu. Ni toi, ni Marie-Lou s'élever en utilisant l'entreprise, en fait. Là, tu sais.
Vous avez quand même parti de pas grand-chose. En s'entendant, tu sais, Marie-Lou était connue déjà un peu parce qu'elle chantait.
Ça, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a des gens qui disaient « Ah, c'est facile, c'est sûr qu'ils ont du succès, puis tous sont déjà connus. » Puis l'autre moitié du monde disait « Chris, ça ne marchera jamais, c'est des has-beens. » C'est quand même drôle.
Moi, je
on savait pas trop.
Moi, je trouve que vous avez quand même vraiment construit de quoi. Tu sais, oui, elle chantait, mais vous avez construit de quoi de nouveau à partir d'absolument rien, man. Puis ça, c'est tout à votre honneur. Là, c'est les personnes qui...
Oui, puis non, on est parti de rien. On a eu des investisseurs privés au début que je remercie encore à tous les jours. Puis moi, j'avais quand même une base en photographie. Marie-Lou, ça faisait longtemps qu'elle cuisinait. Puis c'était pas nouveau dans le sens où Ricardo était là, Coup de pouce était là, Cuisine futée était là, il y avait plein de gens qui étaient là, qui avaient déjà du succès. Je pense qu'on l'a fait différemment. Puis nous, comme je disais tantôt, ce qui faisait la différence, c'était nos intentions. L'intention avec 3 fois par jour, c'était de transformer pour le mieux la relation entre la nourriture et les gens.
Ouais.
Parce que Marie-Lou avait vécu un trouble du comportement alimentaire. Elle a été anorexique de 14 à 18 ans, puis elle s'est guérie. En majeure partie parce qu'elle a appris à cuisiner. Fait qu'en apprenant à cuisiner, tu comprends ce que les aliments font à ton corps. Puis après ça, ben, t'essaies de... Ou en tout cas, ce que Marie-Lou a réussi à faire, c'est de distancer l'image du besoin du corps. Fait que On a réussi à faire ça, puis c'est de ça dont il était question. Puis, tu sais, on le dit pas ouvertement tout le temps, mais le nombre de fois qu'il y a des mamans puis des papas en pleurs qui nous ont arrêtés à l'épicerie, dans la rue, au centre d'achat, whatever, pour nous dire « Vous avez sauvé ma fille, vous avez sauvé mon garçon. » On leur a trouvé, tu sais, on a trouvé une manière d'être en famille pour manger ou des choses comme ça. Je pense qu'on a fait naître du bon de ça, puis c'était ça l'intention. Avoir voulu juste faire des recettes, ben on aurait eu un petit studio, puis on aurait fait 40 recettes par jour. On aurait engagé du monde pour faire des recettes pour nous, puis tout ça. Mais comme c'était vraiment un craft trois fois par jour. Pendant 2 ans et demi, 80 heures par semaine, on faisait, cuisinait, je faisais les photos, on faisait la vaisselle. Puis c'était ça non-stop pendant 2 ans et demi. On n'avait pas de vie sociale, rien. Mm-hmm. Puis c'est pour ça qu'on est arrivé là. C'est pas parce que Renan Jalil ou quelqu'un était derrière nous puis nous a poussé à,
tout à, fait, là.
À faire ça, où il n'y avait pas de machine, c'était elle puis moi en bobette le dimanche soir qui brainstormait sur qu'est-ce qu'on fait. Puis on a sorti des napperons, des affaires, parce qu'on devait payer du monde pour travailler pour nous parce qu'on était dans le jus, la demande était forte et ainsi de suite. Fait que tu sais, oui, on est devenu indépendant de fortune, mais man, on a mis les heures, tu sais.
Complètement. Puis je pense qu'une chose qui a démarqué aussi le truc, c'est la signature esthétique de ce projet-là qui était vraiment, man, qui avait du cachet, qui était différent de tout le reste des choses. Là, pis...
ben, c'est une signature qu'on s'est fortement inspiré de ce qui se faisait en Europe, de ce qui se faisait en Australie aussi, des courants de photos culinaires. Puis maintenant, c'est devenu vraiment populaire. C'est un beau courant de photos, mais tu sais, on n'a rien inventé dans le sens où on a repris des affaires, on s'est inspiré. Puis nous, ce qui était important quand on faisait des photos, c'était pas de faire des photos de la recette, c'était faire la photo d'un moment. C'était d'inspirer les gens à préparer une belle table pour la famille, pour les amis, des choses comme ça. Fait que quand on se faisait dire « Ah, oh, c'est tout le temps beau, vous autres, tout le temps parfait, vous vivez sur une autre planète », on était comme « Non, vraiment pas, man. Je vais faire mon épicerie en jogging à Longueuil, là, comme respect. » Puis c'est juste que c'est pas inspirant, tu sais. J'aurais bien voulu faire des photos de lunch dans un Tupperware sur un comptoir à côté d'un micro-ondes dans une cafétéria, mais comme c'est pas ça qui inspire les gens à cuisiner. Puis nous autres, ce qu'on voulait, c'est que les gens apprennent à cuisiner, puis aient vraiment envie de le faire pour vrai, puis faire une belle table, puis recevoir du monde, créer des liens, jaser, puis c'était tout ça trois fois par jour. Fait que...
On a reçu ici le nutritionniste urbain Bernard Lavallée, là, un petit bout quand même, puis il disait, tu sais, les Ricardo puis les Marie-Lou, puis... En tout cas, ceux qui partagent leurs recettes puis qui inspirent les gens à cuisiner, justement, ils ont tellement, pour la santé publique, répandu du bon. Parce que, tu sais, c'est un des premiers conseils santé nutritionnel, c'est cuisiner à la maison, tu sais, plutôt que manger dans les restaurants. Fait que, justement, tu sais, vous autres, vous avez désengorgé les hôpitaux, tu sais, vous avez,
ben,
tu sais, de manière humble, je veux dire, parmi d'autres, mais dans le fond, tu sais, pour la santé des gens... Justement, d'inspirer les gens à cuisiner, man, c'est un des meilleurs conseils santé que tu peux donner. Là,
non, ben, c'est ça l'affaire, puis c'était ça le but. T'sais. Le but, c'était rien d'autre que de faire comme, hey, on est écœuré de nos jobs respectifs, pourquoi on ne supporte pas un projet, puis si c'est payant, tant mieux. Puis c'est devenu ce que c'est devenu.
C'était quoi ta job respective, toi, dans le fond?
Moi, dans le fond, j'ai été humoriste de 2007 à 2012.
C'est ça, tu as fait l'école de l'humour. J'ai comme appris ça vraiment trop tard. C'est drôle, hein?
J'ai gradué en 2007, en même temps que François Bellefeuille, Mathieu Cyr, Simon Gouache.
OK.
Une bonne année.
Une super bonne année.
Mais moi, je t'ai connu dans le temps avec
Contre
de gueule.
Mais c'est là que je voulais aller.
Moi, j'étais au cégep, même au secondaire, quand ça a commencé au cégep.
Ça m'a fait rire, man. J'ai un gars qui m'a dit, hey, monsieur, j'aimais vraiment ça, vos capsules de Contre de gueule. J'étais comme, d'où, t'as quel âge? Comme, j'ai 20 ans. Il y avait 8 ans, 8-9 ans quand il écoutait ça.
Mais tu sais, nous autres, moi, mettons, je suis peut-être 6 ans, toi, t'as 33.
33,
moi, j'ai 27. Fait que tu sais, moi, c'est ça, c'était fin secondaire ou cégep que je tripais, là. Je tripais là-dessus, nice, c'était bon.
Tu sais, mettons que tu regardes maintenant le courant des photos de bouffe Pinterest, mettons, au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont arrivés après trois fois par jour. Puis admettons qu'après ça, tu regardes Contre de gars, puis les capsules web de genre de vlog qui sont arrivés après Contre de gars, j'ai l'impression que toi, man, tu t'es inscrit dans des courants rapidement. Tu sais, au Québec, je veux dire, des appelons ça vlog, mettons là. Mais ben, aujourd'hui, ce serait l'équivalent, mettons là.
Les humoristes qui font des capsules, puis ça devient leur méthode de marketing, dans le fond. Ouais. Tu sais, mettons les.
Mais toi, t'étais early en tabarnak dans ce trend-là.
Ben, moi, j'ai parti ma page Facebook en 2007. Ouais. OK? Puis quand j'ai parti ma page Facebook...
Facebook, en 2007, ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans, c'est ça. Hein?
Puis là, t'avais ce qu'on appelait des fanpages. Fait que j'avais parti une fanpage en sortant de l'école.
T'étais un précurseur, mon gars. Là.
Ben, c'est parce que j'ai vu là... Ben, je sais pas si je suis un précurseur. Il y en a sûrement d'autres qui l'ont fait en même temps, mais je peux pas savoir parce
que
c'est
Québec,
pas documenté.
Au Québec, en tout cas, on en parlait, là, des clips humoristiques comme ça. Là,
il y avait en même temps que nous autres, il y avait Idiot Fortier. qui était une série web, un peu comme caméra tenue dans la main. Là, okay. Puis c'était drôle, c'était vraiment drôle, c'était vraiment éclaté. Puis tu sais, il y avait eux autres. Puis pas longtemps après nous aussi, il y a eu le truc avec Simon-Olivier Fecteau en audition avec Simon.
Wow. Ouais, ouais, ouais.
Puis il y avait une couple d'affaires sur YouTube. C'est
Tom et ses chums, c'était en quelle année?
Ça, c'était avant.
Ouais, man.
Ça, c'était avant.
Des affaires médiévales, puis tout, là.
Donjon Dragon, là. C'est drôle, sérieux.
Parce que hier, il y avait comme un article, je sais pas si c'est crédible ou pas, j'ai pas pris la peine de le lire, mais ça disait qu'il y avait une subvention pour une web série maintenant. Là,
mais ça, c'est
comme
genre.
15 ans après.
C'est comme un des premiers vidéos virales là, du Québec, le Tom et ses chums.
Ouais, c'était vraiment. Mais c'est ça, ma page Facebook, je me faisais regarder de haut quand j'ai fait ça parce que les gens trouvaient ça prétentieux d'avoir une page Facebook puis de parler de son matériel. J'étais comme. Tu sais, moi, dans le fond.
C'est comme rendu la base.
C'est ça, c'est juste la base. T'sais, moi, ça me faisait rire un peu quand les gens étaient comme. Puis aujourd'hui, il y a des gens qui me donnent des sous pour que je leur explique comment ça marche, puis comment faire, puis tout ça. T'sais, fait, puis je veux pas dire que j'avais raison, gang de cave. Là, c'est vraiment pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai vu là, ben, c'était simple, man. C'était gratuit, puis tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Ouais. Puis moi, je suis un gars de même. Je suis un peu sauvage dans le sens où. Si j'ai un projet, m'a le faire puis m'a le payer, esti, parce que genre j'ai travaillé en télé, j'ai travaillé en humour puis j'ai été vraiment gossé que les producteurs disent qu'il y avait jamais d'argent mais que tous les producteurs que je connais avaient une Porsche puis un bateau. Ça me faisait fucking chier. Puis je m'excuse, je deviens vraiment émotif quand je parle de ça parce que c'est encore ça la réalité. Oh, on n'a pas d'argent, mais tous les producteurs puis plusieurs personnes, je dis pas que tous les producteurs sont riches à millions, c'est pas ça que je veux dire, mais comme c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent, c'est juste que l'argent est, selon moi, drôlement distribué. Puis encore là, c'est du cas par cas. T'sais, j'ai fait des trucs où j'étais très bien payé. Quand j'ai travaillé chez TVA, par exemple, comme auteur, j'avais un très bon salaire, c'était bien. Mais comme j'étais tanné de ne pas avoir le contrôle sur le contenu, j'étais tanné d'amener puis d'être stimulé par des idées puis de me faire casser ça à chaque fois que je voulais les donner. Fait que j'ai fait à un moment donné, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour ramasser du cash, faire mes propres idées, puis après ça, ben je vais faire ce que je veux dans la vie. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Fait que c'est venu d'une frustration que je pouvais pas faire ce que j'aimais, que je me suis dit, ben, je vais faire ce que j'aime. J'avais commencé avec des capsules vidéo, genre, je décrivais un film de Walt Disney, puis je remontais toutes les parties dans le désordre, comme ça, pendant genre deux minutes. Excuse-moi, j'ai accroché ton mic. Pendant, je mettais tout ça dans le désordre, puis ça faisait une espèce de montage un peu fou, c'était comique. Après ça, j'inventais des personnages, je leur faisais des faux documentaires. C'est le médium qui m'a toujours appelé. Puis là, je m'étais rendu compte qu'avec YouTube, ben, ça coûtait rien, puis tu pouvais le faire. Tu prenais des chums qui étaient pas pires, puis tu faisais tes affaires. Fait qu'après ça, on a fait Contrat de gars, puis oui, ça a parti, mais je ne sais pas si c'est nous qui a donné le coup d'envoi pour ça ou si c'est le fait que les gens ont juste fait comme « Oh my God, un truc gratuit qu'on peut faire. » Je pense à Julien Lacroix.
Ouais,
Julien, que je trouve vraiment, vraiment puissant, qui a déjà dit à Joe Roberge, si ma mémoire est bonne, qu'on l'avait beaucoup inspiré à se starter des capsules. Puis tout ça, j'étais content d'entendre ça parce que Julien, il est vraiment bon, il est vraiment drôle, ça y a super bien servi. Tu sais.
Julien, en ce moment, c'est un des meilleurs.
Il est vraiment drôle. Les trucs qu'il fait avec Adib, puis tout, moi, je me souviens, j'avais mal à la gorge, man, tellement je riais. Je pensais que j'allais vomir un moment donné, tellement j'ai trouvé cave. C'est juste fucking stupide, puis genre, j'avais besoin de ça. Je trouve ça vraiment, vraiment bon, ce qu'ils font. Puis c'est juste qu'on a démocratisé l'accès à la culture à tout le monde. Puis comme on va en profiter, tu donnes le pouvoir au peuple. Là. C'est vraiment ça. C'est que les gens, maintenant, s'approprient ces affaires-là. Autant que Uber, Uber Eats, Turo, Airbnb, les gens sont comme « Hey, j'ai des ressources, puis je peux en faire profiter d'autres mondes, puis je peux me ramasser un sideline avec ça. » Puis ça part des carrières, comme dans le cas de Julien. Tu sais.
Ça change le statu quo aussi. Là. Tu sais, nous, on l'expérimente ici avec le studio. Là,
c'est
tu
la
sais.
Même affaire.
Un studio comme ça, jamais des podcasts, mettons, là, jamais de la vie, on pourrait avoir les propos qu'on a, les invités qu'on veut, le contenu
s'il fallait
qu'on
que
décide.
Ton show à radio.
C'est exact, c'est ça. S'il fallait qu'on attende notre show, ben s'il fallait qu'on...
Qu'on rende des comptes à quelqu'un ou quelqu'un ne soit pas d'accord avec nous autres, une façon de faire en haut. Parce que, tu sais, toi, tu avais le feeling que ce que tu faisais, c'était la bonne chose à faire. T'sais. Puis quand quelqu'un qui en haut disait, ouais, non, c'est pas ça que tu devrais faire, nanana, c'est comme, ah, tu sais.
Moi, j'ai pas gardé mes jobs longtemps. Dans
mais c'est ça.
J'ai fait 4 écoles secondaires. Moi, j'étais pas capable de me conformer. J'étais pas capable. Puis pas de me conformer, genre, faut que tu sois là de telle heure à telle heure. J'étais capable de rentrer faire des chiffres. Là, c'est correct. Je comprends le fait qu'il faut avoir une discipline, un horaire, puis des choses comme ça. Mais pour moi, quand ça sortait en dehors de mes valeurs, c'était no fucking way. Ça marchait pas. J'ai déjà quitté. J'ai travaillé 2 semaines dans un magasin de vêtements, une grande, grande chaîne de magasins de vêtements qui n'existe plus maintenant. Puis je me souviens, j'étais avec un client, on avait du fun, puis genre, tu sais, j'étais payé un peu à commission, mais c'était genre ridicule, je faisais comme 2 cents $ à commission. Puis à un moment donné, la personne qui gérait le magasin est venue me voir, puis elle a dit, là, ça va faire le sourire, puis on s'amuse un peu moins, puis ci, puis ça. Puis j'avais comme 850, 1000 piastres de linge dans les mains pour le client. Le client, il m'a regardé, il dit « Attends, je t'amène prendre un café, tu devrais crisser ça là, ce job-là. » J'ai fait « Ouais, bonne idée. » J'ai mis le linge là, puis j'ai calissé mon camp. Puis comme, man, je me souviens, j'ai des amis, là, ils faisaient esti de l'eczéma parce qu'ils stressaient d'aller porter des CV chez McDo, puis ils voulaient être pris parce qu'ils voulaient que dans leur CV, c'était écrit « J'ai travaillé chez McDo, genre, tu peux m'exploiter, all you want, je vais le faire. » Puis pour moi, j'étais comme « Oh my God, c'est complètement ridicule, man. » Je veux dire, tu pourrais faire plus. Tu pourrais comme faire ce que t'aimes puis être payé plus puis tout ça. Puis bon, ça n'a jamais été ça. C'était comme « No fucking way, je vais pas me conformer à vos affaires. Mm-hmm. » Puis aujourd'hui, c'est ça que je fais. Ça a son lot de conséquences négatives aussi. Je ne suis pas un gars qui a la meilleure discipline au monde. J'ai juste un secondaire 4. Tu sais, comme il y a plein d'affaires comme ça, mais je vis bien puis je suis heureux. Puis je ne veux pas dire aux jeunes, lâcher le secondaire, n'allez pas travailler puis whatever. C'est super important. Je pense à retourner à l'école bientôt parce que j'ai manqué ça dans ma vie. J'étais full intéressé par la matière, mais j'étais complètement dégueulé par la manière de l'apprendre. Puis le fait qu'il fallait que je reste assis puis que je fasse comme, OK, ben là, aujourd'hui, j'ai appris des affaires dont je ne me servirai jamais. T'sais. On a construit mon esprit de déduction, mon esprit logique avec les mathématiques, mais moi, ce qui me faisait triper, c'était le français, puis l'histoire, puis la musique, parce que je jouais du drum. Mm-hmm. Mais je pouvais pas faire ça. Il fallait que je fasse des maths, puis j'aimais pas ça. Puis comme aujourd'hui, je connais les maths que j'ai besoin de connaître parce que j'ai des entreprises, mais comme sinon, je m'organise bien, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas gardé des jobs longtemps. Puis quand je voyais des milieux où j'étais capable de faire ce que je voulais quand je voulais, ben j'allais là, puis je demandais l'aide des gens. Puis j'ai toujours bénéficié d'une belle grâce. Tu sais, les gens m'ont toujours encouragé dans ce que je faisais. J'ai toujours eu des réactions positives. Fait que je suis bien chanceux, mais je n'ai pas fait ça tout seul.
La beauté aujourd'hui, c'est que tu n'as plus besoin d'attendre de te faire repêcher, d'aller te faire chercher par quelqu'un. Ça m'a donné une job, m'a donné... tu vas animer telle émission, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu sais, on a tous les outils. Faire un podcast, honnêtement, tu sais, nous autres, on est bien installés, on a les beaux micros puis les belles caméras.
Ça rentre dans le micro quand je fais ça?
Un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Faire un met de l'ambiance.
C'est ça.
Faire un podcast, c'est pas dur, tu sais, c'est pas compliqué, c'est simple. Construire son affaire, partir une chaîne YouTube, c'est pas si compliqué que ça, tu sais. Puis, peu importe c'est quoi, ce que tu veux faire, t'as moyen de trouver... Puis, tu sais, l'entrepreneuriat, encore là, c'est pas pour tout le monde. Il y en a pour qui cette insécurité-là ou ce stress-là, ça fonctionnera pas. Mais si c'est pour toi, fonce, tu sais. Hésite pas parce que.
Ou essaie-le, du moins. Essaie-le, tu vas savoir si c'est pour toi ou pas.
Puis c'est ça.
Puis il faut pas non plus banaliser. Tu sais, c'est ça, là, on parle des entrepreneurs. C'est tellement le fun d'être entrepreneur. Puis nanana. Puis je suis comme, ouais, mais faut pas sous-estimer non plus tout. La catégorie des personnes qui ont des jobs manuels, qui ont des jobs...
Oui, mais non, c'est clair.
Comme, écoute, là, si on n'avait pas de gars puis de filles de construction, man, on serait dans la merde, pas à peu près. Oui. Puis tu sais, des ouvriers... Tu sais, faut pas oublier qu'on est un tout puis qu'on dépend tous les uns des autres. Ouais. De toutes les manières possibles, là, on dépend tous les uns des autres. Puis comme ça, c'est important de le voir. Fait que oui, c'est le fun, l'entrepreneuriat puis tout. Mais comme tu dis, c'est-tu fait pour toi ou pas? Puis moi, j'encourage les gens à découvrir ce qu'ils aiment. Mm. Je dis pas aux gens, partez-vous en business, dites fuck you à tout le monde. L'attitude que j'avais était pas noble tant que ça. Tu comprends? Ouais. C'est juste que j'avais pas envie de me conformer. Probablement parce que j'ai des douleurs d'enfance qui faisaient en sorte que j'étais aucunement capable de tolérer l'autorité. Mm-hmm. Mais j'aurais aimé ça, la tolérer plus. J'aurais aimé ça, être plus longtemps aux études. Tu comprends? Mm. Fait que, looking back, là, si je regarde en arrière, ben, je me rends compte que, man, c'est important de tout considérer puis d'essayer des affaires puis d'être calme puis de le faire patiemment parce que tu vas trouver éventuellement, c'est sûr et certain. Il faut juste pas que tu aies peur d'essayer. T'sais.
C'est ça.
Comment tu sais, là, avec tout le discours que tu sembles avoir autour de la façon avec laquelle l'éducation était pas fonctionnelle pour toi, de la façon que c'était fait, c'est quoi ton approche? Parce que là, tu as une fille qui est rendu...
Trois
ans et demi. Qui va arriver dans le système d'éducation éventuellement. C'est quoi le... Comment pas t'appréhendre ça, mais comment tu vois ça arriver, sachant ta relation à toi avec le système d'éducation, puis la façon avec laquelle l'enseignement est donné aux jeunes qui parfois... Puis moi, ça résonne beaucoup ce que tu dis dans mon expérience à moi. Là, moi, une chance que je suis en sport-études, sinon... Je me serais jamais rendu secondaire 3, là, jamais. Fait que comment tu vois ça, mettons, maintenant, du point de vue du père?
Je dis souvent à Marie-Lou, qui est la mère de ma fille, j'ai déjà entendu une rumeur comme quoi Jeanne, c'était pas ma fille.
Ah ouais?
J'ai entendu des affaires.
Vous autres, les rumeurs, là, puis les magazines à potins,
moi, je suis dans une secte, by the way. Il y a des gens qui pensent que Marie-Lou et moi, on est dans une secte. Moi, j'adore ça. Quand je lis ça, je suis content de savoir qu'on occupe l'espace de l'esprit de certaines personnes.
Mais ça, c'est parce qu'il y a des, il y a des personnes qui ne peuvent pas concevoir qu'un couple, ça va, ça s'en va.
Ah, mais je peux comprendre, man. Je peux comprendre, je veux dire.